C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. J'ai hâte de commencer l'émission et de présenter tous les chroniqueurs. Je vais le faire tout de suite. Le président, c'est Eric Blanc. Rico Blanco de La Plata. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Je sais pas si vous avez regardé hier le... Ah, vous voulez faire une petite dédicace?
Non, pas une dédicace, mais je laisse 2-3 messages à M. Micou, qui m'a demandé un service. Ouais. J'ai remué ciel et terre. Ouais. Mais il répond pas.
Ah, bon, il nous regarde, Johan. Bon,
voilà.
Vous répondez au président Blanc, voilà. S'il vous plaît. Hein, je vous remercie. On a parlé de Yamal-Ambien hier, hein, puisque sur la chaîne L'Équipe, il y avait l'Espagne contre le Brésil. Exactement. Et Yamal a fait un sacré numéro. Donc à surveiller, c'est dans moins de 15 jours, hein, PSG-Barça. Une voix arrive dans l'équipe du soir de Voice. Frédéric Verdier, bonsoir.
Bonsoir à tous, quel bonheur.
Ça va?
Très bien.
Frédo, juste à côté de vous, poussez-vous un petit peu parce que ça va, ça va. Le Parisien débarque.
Le Parisien? Ouh là là, vous avez la main lourde. Hein.
Oui, ce soir, je suis pas très rigolo.
D'accord. Est-ce qu'il y a une thématique veste de chasseur?
Non, pourquoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a?
Vous allez voir. Ça va bientôt arriver.
Ah oui, la veste de chasseur?
Oui, j'ai l'impression, oui.
C'est pas votre camarade de jeu, Parisien?
Non.
La fouine de l'équipe du soir, Benjamin Corrèze, bonsoir.
Non, apparemment, moi, je sais m'habiller. Bonsoir, Président.
Ok. Alors, ça ne sert à qui, alors, la veste de chasseur? La Michel Fil, là,
hein, au coin du feu.
La Michel Fil.
C'est le cercle de Mille.
Allez, Guillaume Dufy, là, le commissaire Valentin.
La pipe.
Comment allez-vous? Ça va. Bonne pipe. Très bien. Merci beaucoup.
Surpris par le nombre de représentants du Parisien autour de...
Oui.
C'est beaucoup, non?
Ouais.
Déjà, un, parfois, c'est insupportable, mais deux...
La dernière fois que vous avez fait l'émission, vous louez la qualité du casting ce soir. J'en déduis qu'il y a des...
Pas mal.
Pas mal.
Il y avait Régis Testelin la dernière fois, là il est pas là, mais c'est bien quand même. C'est
ok,
bien.
D'accord, très bien. Bon, c'est son chouchou, j'ai l'impression. Tanguy Le Sévillier, bonsoir.
Bien aussi, Tanguy.
Ça va.
Merci. Propre.
Oui. Très bon attaquant. Bon tireur de pénalty, mais on en reparlera tout à l'heure, je crois.
C'est un teasing, bravo Guillaume. Bravo Lens. Lens va libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris pour la bande à Titi Henry. Info à la chaîne d'équipe, info à Bertrand Latour. Concrètement, donc, Kelly Wailly et Andy Diouf seront libérés. Confirmation de cette info dans la soirée. Conférence de presse de Franck Haise. Écoutez-le.
Je crois que le club a communiqué aujourd'hui dans ce sens. Et dans la communication du club, je la valide totalement.
Une mise à disposition qui soulage un peu, qui fait du bien. Au lendemain de la déclaration donc, de Florent Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, allez-vous libérer les joueurs du Stade Rennais pour les JO de Paris? C'est une question. On va écouter, regardez cette séquence, il y a un petit flottement. Question adressée à Julien Stéphan, au président Olivier Cloarec. Et puis c'est le directeur sportif qui sort du bois. J'ai nommé Florent Maurice. Regardez cette séquence.
Moi j'ai une réponse. Hein. Non. Non. Effectivement, vous pouvez comprendre que libérer 4 joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique, mais il faut comprendre aussi les clubs. Et je crois qu'il y a un très très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. Évidemment, on fera de notre le mieux possible, je vais dire, pour pouvoir aider l'équipe de France, mais il faut que les intérêts soient communs. Et on ne peut pas se déshabiller et pour habiller forcément l'équipe de France.
Eh bien si, Lens déshabille ce contenu pour les JO, enfin donne 2 joueurs. Lens libère ses joueurs pour les JO. Lens doit-il être l'exemple à suivre pour les clubs de Ligue 1? Il a répondu oui, c'est le chroniqueur du Parisien, l'un des Dominique Sévrac. Oui, une minute pour convaincre, on baisse un petit peu l'intensité lumineuse. Non, mais ça c'est dans la charte de l'équipe du soir, c'est dans la mise en scène. On se tait, on vous écoute religieusement. Pourquoi oui?
Non, mais je connais par exemple la position de Guillaume Dufy sur ce plateau qui dit récemment, moi j'ai pas envie qu'il y ait des... Le foot au JO, ça devrait pas exister. Bon, ok, c'est respectable, c'est sa position. Mais à partir du moment où le réel s'impose, et le réel c'est qu'il y aura les JO de Paris en août et qu'il y aura... le football va avoir lieu. Donc à partir du moment où ça a lieu, il faut que les clubs français... que l'ennemi ne soit pas de l'intérieur. Il faut que les clubs français libèrent les joueurs. Peut-être que c'est un gros mot, mais je sais pas, il en va un peu de l'idée qu'on se fait du pays, de la patrie. C'est l'équipe de France, c'est pas rien. Il parle des intérêts communs. Florian Maurice, un joueur qui va faire les JO va prendre de la valeur. Si les JO se passent bien, c'est un joueur qui va prendre 5, 10 millions, 15 millions d'euros sur le marché des transferts à court ou moyen terme. Donc les clubs, ils retrouveront leur petit à la fin du bal. Donc, je ne comprends pas l'histoire du tour préliminaire de machin. C'est la France, c'est un argument qui dépasse, les équipes de France dépassent les arguments des clubs et j'aimerais qu'on remette ça au centre du foot. D'abord les sélections, après les clubs, quelles que soient les contingences qu'on a à jouer en août, un tour préliminaire ou je sais pas quoi.
C'était la déclaration du ministre des Sports de l'équipe du soir, Dominique Sévrac. Si Dominique vous a convaincu, vous avez... Oui, il y a une attaque.
Non, il dit que c'était respectable.
Non, c'est respectable, mais pas actuellement. Cite l'équipe. Dominique vous a-t-il convaincu? Tour de plateau, avez-vous convaincu l'ensemble des copains chroniqueurs? Benjamin Quarez, convaincu par Dominique?
Moi, j'ai pas le choix déjà.
Oui, c'est votre chef, c'est votre supérieur.
Bon,
oui.
Pas vraiment, mais non. On va dire ça.
Il est très très influent, paraît-il, au Parisien.
Pas partout les arguments, mais dans l'ensemble, oui.
Ok, donc pas partout. Il y a des trucs qui passent pas partout. Guillaume, vous avez été attaqué, évidemment.
Non, mais moi, je...
Non, oui ou non? Convaincu ou pas?
Non, mais ses arguments sont excellents, comme tout ce qu'il dit tout le temps sur n'importe quel sujet.
Ouais.
C'est sa force, d'ailleurs. Mais non.
Un brin d'ironie, quand même, d'accord. Très bien. Fais donc, Bernier.
Comme je sens une espèce de grisaillerie sur ce plateau, une tiédeur,
on accompagne.
Je dirais grand oui.
On accompagne. Merci. Donc vous êtes nommé sous-secrétariat des sports à l'équipe du soir.
Je brigue.
Et le patron maintenant, vous avez écouté Dominique là.
Il n'y a pas de duel.
Ah ben, on va pas faire
d'accord,
pour convaincre le duel,
Moi je dis.
Non, quand t'es président, t'aimes bien arbitrer des duels, sinon je reste chez moi. Mais bon, alors.
Mais si on refuse des duels.
Plus sérieusement, pour d'autres arguments.
Oui ou non? Convaincu ou pas?
Oui, mais avec d'autres des arguments complémentaires.
La complémentaire, santé, c'est Ricky. Allez-y.
Non, bon, quand on voit le Real Madrid, oui, il fait des tournées en Amérique, il va chercher de l'argent en Asie, il a des contrats faramineux, les mecs, ils jouent pour 3, 4, 5 millions. Là, t'as des classicos qui vont avoir lieu aux États-Unis.
Là, c'est la tournée du Real, là.
Voilà, ouais. Du Real, non, ouais. Mais pendant les JO.
Ouais.
Donc, les mecs ont signé et des joueurs ne viennent pas, c'est plus compliqué. Après, je suis désolé, même s'il y a un tour préliminaire, Rennes ne fera pas ce tour-là, peut-être, ni Lens. Il propose deux joueurs à Lens. Vous venez de me dire qu'on n'est pas sûr qu'ils soient titulaires non plus. Ils n'ont pas d'enjeu majeur. Aucun joueur de Lens de Rennes va jouer l'Euro en plus devant.
Non.
Donc, faut faire un effort. Faut proposer deux mecs, leur dire choisissez entre les deux. Mais si tous les clubs français tendent la main, ça arrange les bidons.
Solidarité.
Voilà, mais pour des raisons aussi qui est liée au niveau des équipes qui libèrent leurs joueurs. Okay. Moi, je dis pas non plus après que Lens et l'abbé Pierre, faut se prosterner, que les autres sont des cons, etc. Mais non, mais parce que j'aime pas qu'on dresse les clubs les uns contre les autres, ça veut dire les bons ou les mauvais, tu vois.
Ça a exposé la chose.
Non, mais les Lensois doivent-ils être exemplaires? Enfin. Un exemple à suivre.
Vous n'étiez pas d'accord avec Dominique la contradiction.
Pour deux raisons, parce que la première, j'aurais bien aimé que tout le monde s'émeuve autant il y a 3 ans quand le pauvre Ripoll a essayé de composer une équipe digne de ce nom, capable de briller lors des JO. C'est ce qui n'a pas été le cas. Alors là, parce que c'est en France, tout le monde s'excite et voudrait faire de l'équipe de France une équipe exceptionnelle. Et dans 4 ans, les JO ne seront pas en France et on oubliera ce sujet. Et comme l'a dit fort justement Dominique, je trouve que le foot aux JO, je parle du foot masculin, est une ineptie totale. C'est la seule discipline des JO qui ne permet pas d'avoir les meilleurs. Parce qu'il y a un règlement
FIFA.
Un peu étrange. On autorise cette compétition aux moins de 23 ans. Est-ce qu'au judo, on dirait, non,
c'est là, Guillaume.
Ceux qui... Mais non, mais attends, laisse-moi terminer, Dominique. On peut dire et on peut décider, on pourrait débattre et proposer foot disparaisse de ces JO parce que ça ne sert absolument à rien, c'est inutile.
Guillaume, on va voir ce débat dans quelques minutes. Ça, c'est plutôt la question de fond. Mais là, la question JO Paris, ça commence dans 4 mois, même dans moins de 4 mois, parce que le tournoi commence le 24.
Mais moi, je comprends, je trouve ça merveilleux.
Vous, c'est la position des... Là,
moi, c'est très bien, c'est vachement bien, c'est magnifique, il a que 2 joueurs. Je suis pas persuadé qu'il ait le même avis s'il avait 4 ou 5 joueurs avec cette possibilité de terminer 4e et de disputer le tour préliminaire avec, à la clé, 40, 50 ou 60 millions d'euros.
Ils prennent le risque.
Et Florian Maurice, qui est dans une position différente, donc c'est sa voix, mais c'est la voix aussi de son actionnaire. S'il a 4 ou 5 joueurs, effectivement, 4 ou 5 joueurs titulaires, c'est pas la même.
Okay.
C'est pas la même. Donc moi, je trouve que les arguments de Florian Maurice sont respectables, et je les entends, je les comprends, et ceux de Hez aussi, mais moi, il est hors de question que je monte les clubs en disant, lui, il a raison.
Attendez, parce qu'on va laisser parler la parole à Fred Verdier, mais pour Guillaume, en fait, tout est possible.
Ouais,
tout est, finalement, tout est respectable.
Voilà. Florian Maurice gagnerait à clarifier un peu le truc, mais je pense qu'on a tort de lui faire ce procès-là, c'est qu'il dit bien,
Moi, je donne pas 4 joueurs si je dois en donner 4. Mmh. Ça, c'est important de
faire. C'est clair, ce qu'il dit, tu vois, c'est
voilà,
clair, Fred.
C'est clair, mais il parle de 4 joueurs. Il dit pas, je donnerai pas 2 joueurs. Si on lui demande Doué, par exemple, et Truffert, on peut penser, sans lui faire de procès d'intention, qu'il va les donner. Mmh. Ça serait absurde de Thierry Henry de prendre les 3 joueurs qui sont dans, dans la bonne catégorie d'âge et de demander derrière Bourigeaud dans les 3 plus de 23. Ce serait vraiment une provocation.
Et Mandanda.
Oui, pour, tant qu'on y est.
D'ailleurs, Désiré Doué, il a 2 chances au tirage. Parce qu'il peut faire les JO, mais il peut faire également l'Euro Espoir, qui n'est pas une compétition FIFA.
Il a 18
FIFA,
ans.
Qui est juste un petit peu en juillet.
Exactement.
Là, encore, là,
tu vois. Mais là où Maurice, je trouve, choisit un exemple qui n'est pas du tout pertinent, c'est que le Real Madrid, c'est n'importe quoi. Il parle du Real Madrid comme si Rennes était comparable au Real Madrid. Le Real Madrid, il faut bien comprendre une chose, c'est que tous leurs internationaux espagnols, ils n'en ont pas 20, mais en tout cas, tous les Espagnols du Real,
ils sont obligés de faire les JO.
Ils sont obligés de faire les JO. C'est depuis 90 comme ça. Parce que les Espagnols...
La loi va s'assouplir, nous disait Nicolas Georgiou, il y a quelques semaines sur ce plateau.
Devrait s'assouplir.
Oui, devrait. Voilà. Ouais, enfin, bon.
2 ans avec les JO de Barcelone, en 90, eh bien, les Espagnols avaient décidé que c'était obligatoire que les clubs espagnols mettent les Espagnols à disposition des sélections. Voilà, point barre, on n'en parle plus. Donc là, le Real Madrid, quand il parle des Français. Il parle de personne d'autre, puisqu'il n'a pas d'autres joueurs concernés par les Jeux Olympiques, puisque le Brésil n'est pas qualifié. Et d'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus, c'est de dire qu'il y a aussi le côté France, Jeux Olympiques, centenaire après 1924, mais il y a aussi le fait qu'il y a vraiment une médaille à aller chercher. Vous voyez, c'est pas comme quand on était en 96, où ils perdent en quart de finale contre, je crois, le Portugal. C'était un très gros tournoi. Là, il n'y a pas le Brésil. Et les autres équipes européennes, c'est l'Espagne, c'est l'Ukraine et Israël. C'est pas des énormes sélections non plus.
Aujourd'hui, thème d'actualité, Francaise en a parlé. On a décoté cette info grâce à Bertrand Latour. Bravo Bertrand. Donc, Elouaï et Diouf sont libérés pour faire les JO. Thème d'actualité, chaque conférence de presse, toujours cette petite question. On passe à l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage était en conf. Pas d'ambiguïté pour Pierre Sage, écoutez-le.
Déjà, notre club s'est positionné, c'est sorti dans la presse aujourd'hui. Donc nous, on est plutôt favorable à ce qu'ils y aillent. Bien sûr, il faudra voir les conditions. Et pour un club qui s'appelle Olympique Lyonnais, ce serait dommage quand même que les joueurs ne participent pas aux Jeux Olympiques.
Vous écrivez les textes de Pierre Sage, Eric Blanc ?
Il faut voir les conditions. S'il en a 7.
Cherki et Le Penant. Ouais. Voilà, pour resituer. Bah, ouais. Cherki, Le Penant.
Non, juste, mais
j'espère la Casette, mémé.
Il a donné une information.
Et la Casette, peut-être ?
J'espère la Casette.
Ah oui, oui.
Juste une chose, Fred, il m'a donné une information que j'ai suivi l'équipe du soir. Ouais. Tout le monde parlait, l'UEFA ne veut pas la FIFA.
C'est la FIFA.
Là, eh ben oui, mais l'Espagne a réussi à imposer, sans qu'on me raconte des petits dessins animés là que je gobais comme un con, la FIFA, l'UEFA. Non, tu tapes sur la table, tu dis vous donnez des joueurs et ça passe. Donc faut arrêter d'accuser la FIFA et l'UEFA. Je l'ai entendu pratiquement partout dans le monde entier.
Non mais reconnaît que la FIFA fait rien pour.
Je suis d'accord avec toi, mais tu peux.
Ils ne reconnaissent pas le tournoi olympique comme
d'accord,
une.
Mais on est d'accord, ils ne veulent.
Ça fout dans la merde tout le monde.
Oui, mais
parce que ça met en cause.
Ok.
De point de vue marketing.
Ouais, mais.
Oui, mais.
Non mais d'accord. Ok, non mais.
Bien sûr, tu me répètes la même chose.
Non mais faut pas oublier que c'est des. Ils sont quand même. Au minimum très très ambigu.
On ne va pas refaire l'histoire.
La FIFA, c'est assez exceptionnel.
Bravo,
parce que la FIFA, effectivement, on parle des JO, mais il y a quelques mois, une sélection française a brillé lors de la Coupe du Monde des U17. Il y a eu aussi quelques joueurs qui devaient être libérés par des clubs français. Je pense au petit Croupi à Lorient ou Zaïre Emery au PSG.
Gardez, conservez.
Alors que c'est une compétition FIFA, mais qui n'est pas une date FIFA.
Bon, okay.
Donc, tant que Infantino et les successeurs ou les prédécesseurs de Infantino feront ce qu'ils voudront, de Infantino feront ce qu'ils voudront, on aura ces débats.
Les gars,
sans fin, quoi.
Les gars, on va juste, parce que là, vous êtes dans l'analyse, c'est magnifique, vous êtes déjà le chroniqueur de l'équipe du soir, donc là, c'est vraiment, non, juste un peu dans le contenu, parce que moi, j'ai collecté des informations. Là, on a écouté Pierre Sage, d'accord. Maintenant, il y a à Lille, Paolo Fonseca. Il nous dit ceci, et je trouve ça assez ambigu. Ça sera positif si nous avons 2 ou 3 joueurs au JO. C'est le sentiment que j'ai. D'accord. Mais je ne sais pas si je serai l'entraîneur du LOSC la saison prochaine.
Okay.
Si c'est le cas, ce serait plus difficile pour moi.
Ouais.
Mais il est honnête.
Mais s'ils sont quatrième et qu'ils disputent le tour préliminaire ou le barrage sans chevalier, Fonseca et Olivier Létang, le président.
Ils ont quitté éventuellement.
Non, on a je suis pas persuadé, Olivier Létang, qui avait dit non quand il était à Rennes.
Non, on l'a vu aujourd'hui, Olivier
Létang. Alors qu'est-ce qu'il raconte, Olivier Létang?
Nous, il nous a dit, et il l'avait d'ailleurs dit en décembre lors de la réunion avec la fédération, il a dit clairement, nous, on veut aider, c'est une compétition qui a lieu en France. On a conscience de l'importance de cette compétition, mais on va être attentif à deux choses. Effectivement, le calendrier. Mmh. Si on est qualifié pour éventuellement le tour préliminaire de la Champions League qui auront lieu le 6 et 13 août, évidemment, la question va se poser de se dire est-ce qu'on libère nos joueurs pour cette compétition.
Donc, attendez, parce que vous allez vite. Donc, il est urgent d'attendre la fin du championnat, programmé le 18 mai, pour savoir où est Lille. Si Lille est 3e,
exactement.
Banco. Si c'est 4e, tour préliminaire.
La liste est le 20 mai.
La liste est le 20. Super pour Thierry
Henry.
Oui. Okay. Super pour Thierry Henry pour préparer tout ça et tout.
Et la deuxième chose, le nombre de joueurs sélectionnés. On en revient à ce qu'a dit effectivement Florent Maurice.
C'est la guerre.
Bon, si y a un joueur, effectivement, peut-être qu'ils libéreront plus facilement. Si on a 3, ça sera plus compliqué. Pour l'instant, il nous a fait savoir qu'il avait seulement échangé sur les Jeux Olympiques avec Lucas Chevalier, qui est donc pressenti pour être le gardien titulaire des Jeux Olympiques.
J'ai appris aussi au téléphone par un président de Ligue 1, c'est qu'en 2021, les joueurs ne voulaient pas faire les JO de Tokyo, mais que cette année, c'est à Paris, et il y en a beaucoup qui veulent les faire et y participer. Aussi. Le président de Ligue 1 me dit, est-ce qu'on peut prendre, nous, le risque de perdre un joueur si on le garde, si on le conserve, si on ne le libère pas? Là, il y a un petit truc, un rapport de management entre ce joueur qui ne serait pas libéré ou qui serait libéré, et savoir si on le perd pendant une bonne partie de la saison.
Le contexte est complètement différent.
En 2021,
Tokyo, c'était des jeux à huis clos, c'était les jeux Covid. Mmh. Ils savaient très bien ceux qui sont partis, parce que faut pas oublier, faut pas jeter tout le monde avec l'eau du bain. Hein. Toulouse et Montpellier avaient accepté de libérer leurs joueurs.
Oui, comme aujourd'hui.
TJ Savanier, par exemple, était parti. Il avait été très bon, d'ailleurs, dans les 3 matchs, les pauvres matchs que les Français avaient joués. Et lui avait été très bon. Et c'était des jeux qui étaient complètement chloroformés, sous cloche. Et évidemment, c'est pas du tout motivant pour des joueurs d'aller vers ça, sachant en plus qu'il y avait effectivement une hécatombe, il y avait plein de joueurs qui n'avaient pas voulu venir, donc ils savaient qu'ils avaient une équipe qui était quand même très sous-cotée et qui avait peu de chances de podium. Là, il y a quand même une médaille qui est mise vraiment, qui peuvent en tout cas faire miroiter, rien n'est sûr, mais logiquement, c'est très possible. Et puis il y aura une espèce d'élan absolument incroyable. Ils seront tout le temps à domicile, par définition.
Le président de club qui vous dit est-ce qu'on peut prendre le risque de le libérer, c'est aussi prendre le risque de ne pas le libérer et qui rumine ça. Et qui joue le début du championnat en se disant mais moi j'aurais préféré être à Lyon, à Marseille. À jouer. Et on sait qu'un joueur, quand il est complètement contrarié, franchement, il n'est pas toujours.
C'est ce que m'a confié ce président de club. Ah. Là, il y a un cas. Est-ce qu'il disait finalement lors des refus, donc il y a 3 ans, des refus. Ce qu'il disait, en fait, c'est les joueurs qui ne voulaient pas y aller. Et ils disent, les clubs refusaient. Mais nous, on ne veut pas les faire.
Mais je trouve que l'argument de Guillaume, on a fait n'importe quoi en 2021 à Tokyo et on va faire n'importe quoi en 2026 à Los Angeles, parce qu'on a fait n'importe quoi avant et après, il faudrait faire n'importe quoi en 24.
Ce qui me dérange, c'est qu'en 2021, on a fait n'importe quoi et Ripoll a mangé notamment pour ça et s'est fait aussi virer pour ça. Ouais. Et je plains le successeur de Henry qui va se retrouver à Los Angeles avec le même problème et il va être obligé d'appeler un joueur de National, un joueur au Mexique, un joueur en Arabie Saoudite. Mais c'est les JO quand même. Si tu dis que le foot a beaucoup d'importance, il a de l'importance à Paris, à Londres, à Athènes, à Tokyo et à Los Angeles.
C'est pas semblant du contexte. Tu sais bien que la couverture JO 2024, elle sera en France pour l'équipe, pour les Parisiens, pour le Figaro, pour tout ce que tu veux. Elle sera beaucoup plus importante parce que c'est en France.
Je suis pas persuadé que le monde du sport et les fans de sport en France se passionnent pour le tournoi de foot
France. Juste quand même.
Juste Tanguy qui attend son tour.
Pardon,
il y a peut-être un scénario à redouter. Rappelons ce qui s'est passé en 2021.
Oui, Guillaume l'a dit, Sylvain Ripoll avait eu du mal à concocter sa liste pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et 8 joueurs qui avaient disparu après la première liste de Sylvain Ripoll, date de l'annonce officielle, c'était le 25 juin. Derrière, Gauthier Larsonneur, Benoît Badiachil, William Saliba, Malansar, Eduardo Camavinga, Maxence Cacré, Jonathan Ikoné. Et Amine Gouiri n'avait pas pu participer à l'épreuve olympique.
Là, Dominique, vous m'avez appris la liste parce que moi, je n'avais pas vraiment la date. Vous me dites que c'est le 20 mai.
Je crois.
Moi, j'avais pas la date, mais pour moi, c'est le.
Moi, j'ai pas la date non plus.
Moi, j'ai pas la date.
Peut-être plus d'infos, mais en tout cas.
attention.
Non, mais dernier rassemblement.
Duel.
On a pu échanger ce sujet-là, effectivement, assez récemment quand même, parce que moi, j'étais au rassemblement avec les espoirs.
Ouais, mais alors.
Le 23, et ce serait entre la mi-mai et la fin mai.
Fin mai, oui.
L'annonce de la liste des 18 plus 4 réservistes, avec la possibilité pour Thierry Henry de faire des modifications jusqu'à la liste définitive, c'est-à-dire la liste donnée
en juillet
24, début juillet.
Début juillet.
Donc en gros, il y aurait certainement un mois de tractation qui pourrait engendrer quelques changements.
justement entre l'annonce de mi-mai, fin mai, et la dernière liste qui a donc annoncé début juin.
La stratégie pour faire sa liste de Thierry Henry est méconnue. Généralement, il y a des généralités en conférence de presse. On entend Deschamps, la petite voix de Didier Deschamps, la petite voix de Thierry Henry, en disant « j'espère que le truc de 2021 ne va pas se reproduire, que les clubs ont compris tout ça ».
C'est pour ça que Thierry Henry a été pris, hein.
Ouais, aussi.
Mais ça aussi, c'est pas très honnête.
Attendez, la stratégie, c'est quoi ? Thierry Henry, là, il est devant sa feuille. Benjamin, il est devant sa feuille. Il fait quoi ? Il fait une liste. 18 noms. Est-ce qu'après, après avoir coché les 18 noms, il appelle les joueurs individuellement ? Il dit, bon, va voir ton club. Et après, il appelle les clubs. Comment ça va se passer, là ? La mécanique de la liste
pour les clubs. Il va appeler les clubs, évidemment, bien sûr. Alors moi, j'ai été surpris sur une phrase de l'article de ce matin dans l'équipe. C'est que Philippe Diallo, visiblement, a l'intention de bouger une fois seulement qu'il aura la liste des 18 joueurs de Thierry Henry.
Ouais.
J'ai un peu tilté sur cette partie-là. Parce qu'effectivement, on a quand même un travail qui a été entamé en amont avec une réunion de travail avec la fédération, les clubs, les présidents de clubs, début décembre.
Ouais.
Donc j'imagine que depuis, il y a quand même eu des échanges qui ont été maintenus. Avec la possibilité d'avancer en ayant une certaine certitude.
Et Benjamin,
j'espère une chose, c'est que quand la liste sera annoncée fin mai, au plus tard, ils auront des certitudes sur cette liste-là. Parce qu'avec Sylvain Ripoll, il y a 3 ans, comme tu le disais, ça a été l'annonce d'une liste dans laquelle, finalement, il y a la moitié qui a sauté dès le lendemain.
8 sur 18, oui, ça fait beaucoup.
C'est vrai que c'est malin d'agir quand la liste est tombée, quoi.
Benjamin, vous nous dites qu'une rencontre en décembre entre la fédération, et les clubs, il s'est passé quoi
aussi, d'ailleurs.
C'est passé quoi ?
Bah, c'était
des promesses. On va vous soutenir.
C'était l'occasion pour le staff de l'équipe de France Espoir, l'équipe de France Olympique, d'annoncer comment ça allait se passer dans les mois à venir, quelles préparations ils allaient pouvoir mettre en place, se mettre d'accord sur les temps de repos, parce qu'il y a des championnats qui vont se terminer fin mai et il va falloir qu'il y ait un temps de repos suffisant pour les joueurs entre la fin des championnats et le début de la préparation, qui sera donc le 17 juin. Donc les clubs ont demandé lors de cette réunion qu'ils aient au moins 3 semaines de récupération. Ils ont aussi mis sur le tapis la possibilité de donner des joueurs supplémentaires, parce qu'on peut aussi imaginer qu'au début de la préparation, Henry n'aura peut-être pas tous ses joueurs à disposition. Il y aura peut-être qu'ils seront à l'Euro avec les A, certains qui donc ne pourront pas venir compléter le groupe, et ça donnerait un groupe peut-être.
Pardon, faire les oppositions à 18 joueurs, des 9-39, c'est pas terrible.
Certains joueurs à Tokyo, c'était plein d'ailleurs de ne pas pouvoir faire des oppositions à 11 contre 11 et à se retrouver avec des membres du staff qui venaient compléter l'équipe d'en face, et c'était pas possible de préparer une compétition comme
Benjamin,
ça.
La possibilité d'avoir des joueurs qui fassent
hors liste. Alors maintenant,
les deux.
Non, mais l'Euro, Deschamps, il n'est pas favorable. Là, il l'a dit, il a émis un truc, j'ai l'impression que c'est...
Deschamps n'est pas favorable, mais Thierry Henry, à ce moment-là, en l'occurrence début décembre, avait la volonté d'en récupérer. On a toujours la volonté, puisqu'il n'a pas fait une croix sur la présence de Kylian Mbappé, par exemple. Jusqu'à preuve du contraire, il fera l'Euro et il sera bien dans cette liste.
Souvenez-vous de la phrase de Thierry Henry lors de ce rassemblement. Tu y étais quand il dit « Oui, j'ai entendu le nom ». Mais je suis pas du genre à m'arrêter sur le premier nom, donc peut-être qu'il va partir avec son bâton de pèlerin et aller essayer de convaincre Florentino Pérez et consorts. Courage, Titi.
On en fait beaucoup, on en fait des caisses, des tonnes, mais moi je pense que c'est surtout pour les 3 de plus de 23 ans, arrêter de me faire croire que les autres.
On parle de ça.
Oui, mais.
Non, là, c'est. On s'inquiète pour rien. Rassurez-nous, mon ami.
Surtout les 3 stars qu'on veut trouver.
Lesquelles ?
Les autres.
Mais là, c'est plus une question des 3 stars, là.
Ils iront.
Alors, où j'ai pas compris, je suis interprète.
Non, mais ils iront.
Moi,
je te dis, t'inquiète pas, dors tranquille. L'autre chose, c'est que. Ils ont vendu, juste pour Guillaume. Le football, c'est une question d'oseille aussi qui est rentrée au JO. Au-delà, ils ont vendu déjà plus d'un million de billets. Vous entendez, j'ai lu dans une émission économique. Parlez pas de jonglage, contrôle. Le mec parlait de finances.
Vous regardez les émissions économiques.
Un million déjà de billets vendus. Donc quand les Français se déplaceront peut-être pas, mais les touristes qui vont arriver, qui suivent leurs équipes et qui viennent, et ils ont les billets qu'ils peuvent déjà. Il y en a qui veulent voir du basket, mais ils terminent à la natation, etc. Et ben, c'est une réussite déjà. Non, mais il faut le savoir parce qu'on a l'impression que ça intéresse personne. Nous, les Français. Le foot, pourquoi ?
Les places sont pas chères.
Et puis il y a des.
C'est une première intelligence.
On va pas faire des places à 1000 euros comme Massa PSG.
Mais je suis quand même étonné que le foot français nous donne l'impression qu'il met Thierry Henry vraiment en première ligne. Il dit vas-y. Jusqu'à preuve du contraire, l'autorité souveraine du foot français, c'est la 3F. Donc pourquoi la Fédé prétend ne pas avoir de rôle, je veux dire.
Ah bah si, Monsieur Diallo a dit qu'il allait intervenir Diallo, après l'annonce de la liste. Donc,
mais c'est pas à Thierry Henry d'aller faire le démarchage, de faire le VRP, aller frapper à la porte de.
Mais je pense que Thierry Henry a été aussi choisi rôle, pas uniquement pour ses qualités de technicien, mais parce que il a l'aura. Il espère peut-être convaincre les dirigeants d'Arsenal de lui laisser Saliba.
Oui, dans ce cas-là, oui. Si par exemple Henry pense que avoir Alexandre Lacazette c'est une bonne idée, j'espère qu'on va pas la divulgation de la liste pour que M. Diallo appelle John Textor pour lui dire au fait,
tu connais le foot,
how are you? I want to have Mr. Lacazette in my team. J'espère qu'il va pas
c'est
attendre.
C'est de finesse là.
Non, mais j'espère qu'il va pas attendre la fin. Quoi.
Are you? C'est spécialiste de la NFL.
Si c'est toi qui appelles, il vient pas. Donc, reste dans ton coin.
How are you?
Prends pas le téléphone.
How are you, Mr. Textor?
J'ai un petit truc à vous faire écouter. Lens ou Rennes?
Bien.
Oh bah de qualité.
Ouais,
la production est assurée par Émile Gillet. C'est une production Gillet. De qualité. Émile Gillet, ouais. Non ouais.
Le jeune Gillet.
Il y a Louis aussi. Il y a Émile Louis aussi. La production, c'est bien. C'est les tueurs. Lens ou Rennes, le problème est ailleurs, mes amis. Lens ou Rennes, le problème est ailleurs, c'est ce que vous avez dit.
Ouais.
Le vrai débat, c'est Francaise qui va vous l'apporter sur un plateau. Qui vous en parle? Francaise en conférence de presse.
Et un deuxième élément qui n'a rien à voir avec les clubs, pour le coup, c'est simplement pourquoi cette compétition qui est les Jeux Olympiques, n'est pas mis comme date internationale, ça simplifierait les choses. Et ça paraît tellement évident, la Coupe du Monde, l'Euro, les différentes CAN sont dans les compétitions où on doit libérer les joueurs, et pas les Jeux Olympiques. Donc là, je pense que le vrai débat, il est plutôt là. Quoi.
Le vrai débat, et finalement, j'ai regardé, je me suis posé la question, j'ai dit, depuis quand on sait qu'on va organiser les JO?
Et 8 ans.
Le 13 septembre 2017. Voilà. Vous savez, à Pérou, là, à Lima, Pérou, avec Anne Hidalgo, qui était très élu. Donc depuis 2017, rien ne s'est passé. Piqûre de rappel en 2021 au JO Tokyo.
On est bon dans l'urgence en France.
Le foot se réveille et ça devient un débat médiatique, mais voilà, depuis à peu près 2-3 semaines avec Mbappé, avec Benzema et tout ça. Le foot, finalement, se fout-il des JO? Le foot en lui-même, voilà.
C'est contre. Non, parce que
la Fédé, le foot,
c'est
le foot.
Pas les gens qui se foutent.
Non, attendez. Le foot, non, j'inverse la question.
Le foot.
2017, on sait qu'on va avoir les JO. 2021, piqûre de rappel. Là, tout d'un coup, on s'est dit.
Mais c'est une réalité, moi, je suis d'accord.
Non, le foot français, c'est une question. Oui. Est-ce que peut-être que le foot français, oui. Non,
mais là, prenons nos responsabilités. On sait qu'on va organiser.
Juste un mot là-dessus. Sur le plan historique, histoire des JO. Quand on gagne en 84. En battant le Brésil, personne ne se fout du sport olympique qui est le football. Tout le monde est comme des dingues à suivre l'équipe de France olympique jusqu'à la victoire. Et je peux vous dire que pour avoir vu les finales olympiques, notamment celle du Cameroun, la victoire du Nigeria, la victoire de l'Argentine, les deux victoires du Brésil qui n'avaient jamais gagné les JO avant, et voir l'émotion que ça a provoqué, je peux vous dire que à chaque fois, les finales olympiques, l'Espagne qui gagne aussi, ou les médailles d'argent en 92 devant.
Mais répondez à la question, là. Le foot français se fout-il des JO?
Mais le foot français, oui. C'est pour ça que si vous dites juste le foot, je ne suis pas d'accord. Mais le foot français, oui. Je pense que on est tellement peu souvent qualifié pour les JO. Moi, j'ai que le souvenir de 96 avec cette défaite contre le Portugal après prolongation.
76, Montréal, 96-2001. Voilà. Il y a eu un long.
2021.
Ouais, 2021. Donc il y a vraiment un delta hyper important. C'est pour ça qu'on n'a pas de souvenirs.
Mais
si vous convoquez, à part 84 et des images un peu sépia quasiment maintenant, au Rose Bowl de Pasadena, si vous convoquez ces images-là, ça fait un petit peu daté, quoi.
Paris obtenu donc les JO, je rappelle, le 13 septembre 2017. Le foot français se fout-il des JO pour réagir à 4 mois, là, les libérations, on entend parler, les dates FIFA et tout ça.
Vous devez penser que le foot,
non, je suis pas naïf, je regarde.
C'est du 4-4-2, c'est du terrain, c'est le pied gauche de Messi. Le foot, c'est et de l'argent et de la politique. C'est que ça. Donc, Noël Le Graët était le président de la Fédération française. Il est très copain avec Gianni Infantino. Donc, il n'allait pas aller à l'encontre du président de la FIFA. Donc, il n'allait rien faire pour bousculer, comme l'Espagne l'a fait, l'ordre établi. Ça n'intéresse pas la Fédération française. Et c'est visiblement, M. Diallo nous dit que maintenant, il va interagir après. En fait, c'est une volonté politique.
Noël Le Graët avait des défauts. On en a beaucoup parlé. On les avait
il n'allait pas à l'encontre de Gianni Infantino.
Mais défendre les intérêts du foot français.
Oui, mais là, j'ai relu ses déclarations en 21.
Ouais.
C'est affligeant.
Ah ouais,
c'est vraiment que des mauvaises excuses. c'est il prend un peu les gens pour des barbiquets en disant oui, on va voir, la FIFA a sûrement prévu un truc et puis nous on fera aussi quelque chose. Bref, il endort le chaland, il s'en fout, et il se passe rien derrière.
Il n'était pas pour un des seuls présidents de fédération à être pour la Coupe du Monde tous les deux ans. Il voulait coller absolument à la position d'Infantino.
Moi, je veux rappeler encore ce qu'on a vécu en 2021. Ripoll, c'est l'un des chouchous de Noël Le Graët. Breton, c'est lui qui l'a choisi. C'est quelqu'un qu'il respecte énormément. Est-ce qu'il l'a aidé? Est-ce qu'il s'est battu pour faire de la sélection de Ripoll une sélection digne de ce nom et compétitive pour les JO de Tokyo? Non. C'était pas il y a 10 ans.
Il l'a lâché.
C'était hier.
D'accord, mais le monde professionnel, la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde vampirise tout.
Mais je comprends les
Moi, je vais te dire, même des internationaux que j'ai entendus, et je vais citer son nom, Tchouaméni, qui a dit, nous, avec notre employeur, il parlait en règle générale, puisque lui, son nom n'avait pas circulé dans les...
Dans les possibles Mbappé, joueurs de plus de 23 ans.
Moi, je ne l'ai pas trouvé, je dirais, au fond du trou. C'est-à-dire qu'ils sont appelés, ils y vont, Mbappé, il fait sa com, il a raison, on m'appelle, j'y vais, Griezmann, j'y vais, mais demain, ils y vont pas. L'Euro.
Griezmann, il veut y aller. Il a donné une interview dans Le Monde, disant je vais faire les Jeux.
Ils disent tous.
Non. Lui, il a convoqué Le Monde en disant.
D'accord, à ce moment-là, tu me dis ça. Et j'espère, Grisou, il va voir son président à l'Atlético de Madrid et il lui dit, comme a dit Domenech, moi, j'ai 33 ans, ça fait 10 ans que je tapine pour vous. Je suis un des meilleurs. Vous me libérez.
Eric. Ouais.
Bon alors, c'est ça un patron. Dupont, il est allé au Seven. Bon, on l'a fait des boulets. Mais non, mais il se cache derrière des arguments. Mais s'ils veulent le faire, ils renversent la table.
On a fait un bon sketch.
Vous n'êtes pas d'accord.
Ricky, il a convaincu votre
journaliste. Oui ou non? Non mais engagez-vous.
Ah, c'est la question d'Eric. Cristiano Ronaldo est au Real. Le Portugal est qualifié. Peut-être que Cristiano Ronaldo serait allé gentiment taper à la porte de Pérez en disant, voilà, j'ai 34 ans, j'ai 35 ans, j'ai 37 ans. Les JO, je veux les jouer. Laissez-moi les faire.
Bah, Griezmann, très certainement, c'est ce qu'il va faire.
Il se blesse souvent, il y a l'Euro.
Il
se blesse pas souvent. Oui, mais à l'Atlético, là, il se blesse. Vous parlez que des jeunes. Non, mais bon, j'ai entendu des préparateurs physiques. Si tu fais la fin du championnat, l'Atlético, ils sont en quart finale de la Ligue des Champions, ils peuvent aller plus loin. Ils vont se battre pour essayer de sécuriser leur quatrième. Aujourd'hui, ils sont cinquièmes. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid, à l'heure où je te parle, c'est Bilbao. Ouais. Il la joue pas. Mmh. Là, il y a pression quand même en Espagne. Oui. 3, il joue l'Euro, il va en finale, il court partout, il la gagne, il la perd, il est déçu. Même pas 10 jours, avec la serviette et les espadrilles, il repart au charbon. Bon, le mec, il peut te dire, oh, t'as une saison qui va jouer, tu prends quand même 10, 15, 20 millions. Mmh. Bon, tu vas rester tranquillement avec nous à Madrid.
J'ai bien compris.
Et tu y vas pas. T'es d'accord avec moi? Ça serait de bon sens de le protéger.
C'est ce que va dire le club.
Même lui, peut-être. Non.
Eric Blanc progresse 3 minutes d'intervention sans parler une seule fois du Barça.
Oui, mais 3.
Bravo, Eric.
Et de Messi.
Non, bravo.
Messi qui a fait les JO à Pékin.
Bravo. Oui, mais il avait quel âge? 21 ans. Moi, je vais te dire, les 3 mecs.
Dom.
Je savais qu'on va faire une
dame. Allez, on marque une pause parce que là, ça va être plaisir.
Vous virez les vieillards. Ouais, okay. Pas au-dessus de 23 ans, ils sont trop vieux.
Allez, mes petits, dans quelques minutes, ça sera du sang ici, je suis désolé, ça sera Zizou Maïa.
À tout de suite. Ce fils d'un euro, là.
Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Vous pouvez ranger vos portables, Dominique Cévrac, notamment Zizou au Bayern. Alors, qui sera le prochain coach du Bayern pour succéder à Thomas Tuchel? Bild annonce son tiercé aujourd'hui. Numéro 1, Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Numéro 2, Roberto De Zerbi, Brighton. Et numéro 3, Zidane avec un ticket avec une légende du Bayern. Franck Ribéry serait son adjoint. Zidane est-il Bayern compatible? Deux chroniqueurs du Parisien ne sont pas d'accord.
Aïe!
Oh. Jingle.
Voilà. Ça, c'est chaud.
Mais fait peur en régie.
Oh, l'ambiance au bureau d'un matin.
Zidane est-il Bayern compatible? Oui, Benjamin Correz. Non, Dominique Cévrac.
Oui, bonsoir.
Vous ouvrez, Benjamin. Oui, avec quels arguments?
Zinedine Zidane, c'est la culture de la gagne et c'est pas un bâtisseur. Et je pense que pour le coup, au Bayern Munich, il aura donc un club et une équipe qui sera à la hauteur de ses ambitions. C'est aussi la gestion des égos. Pour le coup, il va rentrer dans un vestiaire où ses prédécesseurs, enfin en tout cas les entraîneurs de ces dernières années, ont eu du mal à gérer les égos de joueurs comme Musiala, comme Sané ou Kimmich, qui est peut-être partant, mais on n'est pas encore certain. Et puis je sais pas, le Bayern et les Français, c'est quand même une histoire commune. Il y a eu des joueurs références qui ont fait la grandeur de ce club. Et j'aime bien le ticket avec Franck Ribéry, qui lui connaît pour le coup très bien le club et j'imagine plutôt bien l'alliage.
Non, pas compatible avec le Bayern. Pourquoi, quelles sont vos réserves?
Ah non, Benjamin, tu me dis que Zidane est compatible avec les grands clubs. Bah, je te remercie, effectivement, mais il n'a aucune histoire avec le championnat allemand. Il n'a aucune histoire avec le Bayern Munich. Il a dû les éliminer. Il a dû aussi jouer contre le Bayern Leverkusen. Mais bon, ça ne suffit pas. Zidane, il est identifié à deux clubs, le Real Madrid et la Juventus Turin. Donc évidemment, il est compatible avec ces deux clubs-là. Il y en a un, on en est sûr, puisqu'il a gagné trois Ligues des Champions avec. Il y en a un autre, il pourrait aller un jour... c'est l'Italie, mais je vois pas du tout ce qu'il allait faire en Allemagne. Et tu m'annonces un ticket avec Franck Ribéry, qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Certes, il a joué avec lui, mais c'est baroque.
C'est baroque.
Ah, c'est baroque.
Un duo baroque. Duel pas si baroque que ça. Deux chroniqueurs du Parisien n'étaient pas d'accord. À vous de juger cette confrontation entre deux grands reporters de ce journal prestigieux. Président, à vous de jouer.
Moi, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, le Bayern, comme beaucoup d'équipes, ont un système de jeu avec une possession. Des joueurs étrangers et pas qu'allemands. Ils viennent de perdre le championnat, en tout cas ils le perdront. Est-ce qu'ils gagneront la Ligue des Champions? Un autre débat, en tout cas ils sont toujours en course. Mais il peut arriver dans un club derrière une équipe qui s'est un peu effondrée, qui s'est écroulée. Donc c'est quand même pour moi plus facile.
Ah, d'accord.
Ben oui, parce que si tu arrives et que les mecs font le doublé pour Zidane, après son jeu... Et les joueurs qu'il a, il a quand même, le Bayern a de l'argent pour recruter. S'il peut impulser 2-3 joueurs, et ça, je pense que le Bayern en est capable. Oui, pourquoi il serait incompatible avec eux? Par contre, après, t'as raison, il est identifié à deux, l'Italie, enfin, la Juve et le Real. Mais bon, veut-il faire le grand saut? Merci. Moi, j'ai toujours vu Zidane comme un immense entraîneur. Il attend la place de sélectionneur comme un petit caniche. Mais il y a Dédé en face qui est comme ça, qui part pas. L'Euro se passe bien, il remet le couvert pour la Coupe du Monde. Ans. Donc il va bientôt, on va ramasser Zidane sur un brancard. À voir dans combien de temps il va arriver Zidane.
Dans deux ans.
Il se relance avec une clause, ou si l'équipe de France arrive, il s'en va. Mais qu'il aille. Moi, j'aimerais le voir un peu quand même se découvrir au feu dans un autre très grand club qui lui donne des moyens. Moi, j'en ai marre, je te le dis, de voir Zidane bêcher, emmener les enfants à l'école. Non, et ses enfants, ils ont 20 ans.
Il joue au padel, beaucoup.
Non, mais j'ai envie, moi, de le voir bourrer.
Le président, dans son arbitrage, a donné l'avantage à Benjamin Corrèze, mais a relancé en disant il aimerait que Zidane sorte, on va dire.
J'ai envie qu'il bouge.
Entre guillemets, de sa zone de confort, quoi. C'est l'aventurier, quoi. C'est un autre championnat, une autre culture, un autre truc.
Ah oui, c'est un fou.
Ça, c'est Zidane compatible, ça?
C'est Zidane compatible parce que, de toute façon, il y a aussi l'exemple Laurent Blanc. Hein, il le connaît bien. Il l'a vu quitter le PSG. Il l'a vu faire un peu le difficile. Refuser des Valences, refuser des clubs qui n'étaient pas tout premier plan, pas des top clubs. Bilan, il a perdu le mojo, Laurent Blanc. Il a mis des années avant de retrouver un club, en l'occurrence Lyon. Qui était un club
c'est
de standing.
Blanc,
c'est non, mais c'est comparable dans le sens où j'attends trop, après je me fais oublier, ou après, à force de laisser passer le train, il ne va pas attendre en 2026
il a raison,
pour l'équipe de France. Il y a un moment, il faut entraîner. Ça fait longtemps qu'il n'a pas entraîné. Et j'ajouterais l'exemple de Guardiola. Guardiola non plus, il n'avait absolument rien à voir avec la Bundesliga, il n'avait rien à voir avec le foot allemand. Ça lui disait rien, il parlait pas allemand.
Ah si, durant son année sabbatique aux États-Unis, il s'est mis à
voilà. Frédéric, il n'a pas été un bout de cigare et il a été quand même
entraîneur. Frédéric, je vous coupe pour seul travail d'investigation d'un jeune journaliste qui est au troisième, qui prépare l'équipe du soir. Il s'appelle Thomas Louis Ferron. Thomas Louis, il a deux histoires qu'il m'a ressorties. C'est Pep Guardiola justement. Il a failli refuser le Bayern. Pourquoi? Eh bien, dans la BBC, il s'en explique. J'ai commencé à étudier l'allemand. C'était tellement difficile à apprendre. 3-4 heures par jour le matin avec de la grammaire. Après 2 mois, j'ai pensé, je vais les appeler et casser le contrat. OK. Autre exemple donné par Thomas Louis. Hummels explique les raisons de la faillite de Carlo Ancelotti au Bayern. Je crois que la langue dans ce contexte est très important. Je sais que je me sens plus à l'aise quand je peux parler allemand avec l'entraîneur. Carlo ne pouvait pas construire la communication comme il l'a déjà utilisé dans ses clubs précédents. Est-ce que ça, ce sont des détails racontés soit par Mats Hummels ou Pep Guardiola qui sont importants
le lendemain d'un match de Ligue des Champions
contre le PSG.
La veille, il était à Paris, donc, du match, et son fils, à Carlo, il dînait avec d'anciens camarades de jeu du PSG. Mmh. Il avait travaillé au PSG. Et il dit, j'espère que mon père va se faire virer du Bayern parce qu'il n'en peut plus de la ville, de la langue, de tout ça. Le Bayern, c'est pas fait pour lui. Carlo Ancelotti, on pourrait croire qu'il est compatible partout. Lui, il rêvait que d'une chose, c'est de se faire virer. Donc, c'est ce qui arrivait le lendemain.
D'accord, mais regarde, Nagelsmann, Tuchel, ils sont allemands, et ben, ils étaient compatibles. Moment-là, avec la pression et les résultats, personne n'est compatible.
Non, le choix numéro un, c'est Xabi Alonso.
Mais tu peux aussi parler anglais dans les vestiaires. Il y a des Allemands, bien entendu. Tel, Coman, Harry Kane. Bon, je t'en cite, De Ligt, Upamecano.
De Ligt.
Oui. Moi, je l'appelle De Ligt.
Ouais,
une information. On va baisser l'allocation chômage, quand même, dis-lui à Zizou, quand même.
Juste un truc. Super, sur les entraîneurs italiens du Bayern ou espagnols, moi, j'ai un souvenir ému de Trapattoni, entraîneur de Bayern. Il y a une conférence de presse absolument mythique.
Une des plus grandes.
Voilà, à voir à tout prix en vidéo. Vous faites Trapattoni Bayern, vous l'avez tout de suite.
On va vous appeler Pierre Tchernia, vous, finalement. Vous allez lancer.
Pourquoi pas.
Et Tanguy.
Pierre Castor.
Tanguy, il y a un petit truc à nous apprendre. On a commencé par les infos de Bild. Priorité numéro 1, Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Zidane avec Franck Ribéry. Ce soir, ça bouge.
Oui, ce que Xabi Alonso, Dominique en parlait, mais cette piste s'est un petit peu refroidie, malheureusement. C'est Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern, qui s'est exprimé à ce sujet. Et il a expliqué que Xabi Alonso, lui, préférera sans doute poursuivre la saison prochaine avec le Bayer Leverkusen afin de vivre cette campagne européenne qui est en train de se dessiner en Ligue des Champions. Et donc, a priori, pas de Xabi Alonso l'année prochaine au Bayern.
Xabi Alonso est aussi tête de liste à Liverpool. Il a l'embarras du choix.
Une précision d'Alexis Menuch, notre correspondant en Allemagne, Zidane au Bayern. A priori, ça ne se fera pas ou il y a peu de chances que ça se fasse. Pourquoi ? Au conseil de surveillance du Bayern, ça tique la raison. Zidane ne parle ni allemand, ni anglais. Et ça, c'est un vrai frein.
C'est pas vrai. Je pense qu'en anglais, il se débrouille.
Ah oui ?
Ouais, je pense qu'il se débrouille.
Après, vous parlerez en français, Alexis Menuch.
Non, mais il se débrouille. Il est pas fluent. Après, il a un sponsor.
Adidas.
Bravo, Benjamin.
Adidas,
il est un sponsor. Après, moi, je trouve que l'idée est hyper sexy. Ça me fait saliver. Parce qu'il sortirait de sa zone de confort. Parce que le championnat allemand est un championnat exceptionnel quand t'aimes le jeu, l'attaque et tout. Et Zidane, franchement, je pense que s'il veut montrer et prouver que c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, il ne doit pas uniquement attendre que la place de Carlo du Real se libère. Il doit prendre des risques. Et le Bayern, c'est un risque exceptionnel, c'est magnifique, c'est un des plus grands clubs au monde.
Le Bayern, donc, et Zidane ont un point commun, mais sponsor Adidas, qui n'est ni Nike ni Puma. Voilà, j'ai cité les trois marques, c'est bon, on est bien sûr. Hervé Renard, trop franc. La semaine dernière, le président de la FFF, Philippe Diallo, avait confirmé qu'Hervé Renard quitterait son poste après les Jeux. Ça tombe bien. Hervé Renard, donc, a soldé aujourd'hui les comptes en conférence de presse. Son aventure avec l'équipe de France féminine après les JO. Il a parlé aussi de l'après JO. Ah oui, alors que les JO sont pas faits. Regardez.
Qu'est-ce qu'il dit?
Dans un coin de ma tête, il y a la Coupe du Monde 2026. Et j'espère que ça sera ma troisième Coupe du Monde en tant que sélectionneur dans un pays pour représenter un pays peut-être différent ou pas et à la tête d'une équipe masculine.
Louez-vous sa franchise ou est-ce une faute de com'? Guillaume, vous louez sa franchise?
Franchement, autour de cette table, on ne cesse de blâmer nos interlocuteurs, parce que leur discours est soporifique au possible, pénible au possible.
Langue de bois,
c'est inintéressant. On se demande d'ailleurs pourquoi on va aux conférences de presse. Peut-être que parfois nos questions ne sont pas suffisamment bonnes. Mais là, très franchement, bon, il a le mérite, ce garçon, depuis qu'il est arrivé, de dire ce qu'il pense. C'est peut-être maladroit, j'ai pas envie de le juger, je trouve que c'est hyper agréable.
Pardon, mais
comme journaliste, on répond à une question, le mec te dit ce qu'il a envie de dire et ce qu'il pense.
Hervé, il a trompé personne.
Et je trouve ça génial.
Qui pense?
Là, il nous aurait dit on ne sait jamais, tout peut changer, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Franchement,
Benjamin Correz, Benjamin Correz, vous occupez des espoirs pour le Parisien, je vous écoute.
Mais ça, de toute façon, il ne l'aurait pas fait, puisque lors du tirage au sort des poules des Jeux Olympiques, il avait déjà confirmé les propos de Philippe Diallo en disant qu'il allait effectivement quitter son poste de sélectionneur à l'issue des Jeux Olympiques. Maintenant, moi, ce qui me surprend un peu plus, c'est qu'effectivement, il aille plus loin. dans le détail. Alors évidemment, en tant que journaliste, je suis d'accord avec toi. Je suis ravi qu'il aille plus loin, puisqu'il nous en apprend un peu plus sur ce qu'il veut faire. Mais maintenant, dans la protection de son groupe, et là, je parle plutôt de lui, de son rôle de sélectionneur et de ce qu'il doit faire.
La quand protection il est en... de son
mais
groupe.
Mais c'est important. T'es donc là, à quelques semaines, quelques mois d'une grande compétition, une grande échéance, les Jeux Olympiques, compétition quand même, où tu ambitionnes d'en remporter une médaille. Tes joueurs sont déjà au courant que tu vas partir avant la fin de la compétition. Ça, à la limite,
si les filles ne brillent pas et ne performent pas,
non.
Elles ont cette excuse. Non. Ah bah ouais, mais Hervé, je sais pas avec
qui. Laisse-moi finir.
Laissez-le finir.
Là, il va donc nous expliquer ce qu'il veut faire après. Il a tout le temps de le dire. Il a le temps de laisser passer les Olympiques et de dire maintenant que les Olympiques sont terminés, je vous en fais la confidence. Oui. J'ai l'objectif d'aller à la Coupe du Monde 2026. Benjamin. J'ai envie de retourner une sélection. Il peut attendre.
Benjamin. Mais il est peut-être déjà en train de négocier avec.
Ah bah ça, j'en doute pas un seul instant.
Une fédération. Nous sommes de très bons journalistes. Dans 15 jours. On a l'info,
bien sûr.
Sans qu'il l'ait dit.
Ben, c'est très possible.
Et qu'est-ce qu'on fait ? Ah, dis donc, le cachotier ! Ah, dis donc, il est pas sympa avec les filles ! Ben, là, on sait. Il prend personne...
En traître.
Voilà. C'est clair, c'est net.
Benjamin,
moi, je trouve, oui.
Benjamin, je prends un petit rendez-vous avec vous. Hervé Renard est face à des journalistes. On sait à peu près tous... qu'il est dragué par beaucoup de sélections.
Oui.
Là, le parterre des journalistes, quand la question lui est posée, après, il embraye et il développe un peu. C'est ce que vous...
Mais la question ne lui est pas posée.
Il n'est pas posé comme ça.
Par des sélections. On sait qu'il est notamment dragué par des sélections asiatiques. Mm-hmm. C'est un secret de Polichinelle. Mais la question qui lui est posée, c'est pourquoi ce timing-là ? Mm-hmm. Lui, il répond, comme il avait fait après le tirage, c'est le président Philippe Diallo qui a lancé le timing, puisque dans une interview au Figaro, il a dit qu'il quittait ses fonctions.
Vous ne tombez pas de l'arbre, ce qui vous dit.
De l'arbre, même dans tout le microcosme.
Tanguy Le Sévillier, il y a des petites choses parce que où pourrait rebondir Hervé Renard, il y a deux, trois petites indiscrétions que vous allez nous donner.
Oui, Benjamin est bien informé puisqu'effectivement, en Asie, c'est la Corée du Sud qui fait les yeux doux à Hervé Renard. Et du côté de l'Afrique, c'est plutôt l'Égypte où, visiblement, on ne s'entend pas très bien entre Mossala et le sélectionneur.
Celui que j'entends quand vous parlez, c'est vous, Guillaume.
Il y a une phrase exceptionnelle dans la déclaration d'Hervé Renard.
C'est-à-dire ?
Il dit que je change de pays ou pas.
Alors ça, c'est pas une faute de communication, ça.
C'est-à-dire que je change de pays parce qu'il va entraîner un club, alors ?
Non. La Coupe du sélection. Monde, que je change de pays ou pas. Mmh. Donc il est en France, une donc autre je pense, française, pas et on me l'avait déjà dit, que dans un coin de sa tête, il peut être un potentiel candidat à la succession de Deschamps.
Non.
Mais bien sûr que si.
On vous l'a dit.
Demandez à Dominique, c'est vrai, qui est mieux placé que moi.
On parlait de Zidane. Si Zidane, il va au Bayern. Voilà. La piste Zidane, elle est bouclée.
Il le dit dans la déclare, hein, que je change de pays ou pas. Et là, il est en France. Hein.
Et Hervé Renard, il n'a jamais renoncé à entraîner l'équipe de France A masculine.
Je tombe de l'arbre. Prenez-moi, là, j'ai besoin de soins.
Il se dit, en France, j'ai une image parfois un peu contrastée. On m'a connu plus pour mes exploits à l'étranger, notamment avec l'Afrique, que pour mes expériences françaises en club, tout ça.
Oui, si je fais show à Lille, là, il est revanchard.
Si je performe avec l'équipe féminine de football, peut-être qu'on se dira que je suis un candidat crédible pour.
Depuis Deschamps se plante à l'Euro,
que Zidane ne soit pas dispo. Et que lui, il soit médaille d'or avec l'équipe de France féminine.
Mais Olivier, trois conditions. Depuis le début, c'est dans sa tête. Depuis le début.
Bon, dans quelques minutes, on est rentré en tête d'Hervé Renard. Bravo les copains. Belle enquête ou belle psychanalyse, je ne sais pas. Dans quelques minutes, la suite, Tanguy Le Sévillier met des derniers mots à son journal, à son minuit info. Allez, à tout de suite. Le Minuit Info va commencer avec quelques minutes, dans quelques secondes d'avance. Tanguy Le Sévillier, êtes-vous prêt ?
Moi, je viens souvent aux émissions pour les Minuit Info.
Exact. Et on va commencer par une très très belle nouvelle, parce qu'il y aura un club français en finale de la Ligue des Champions d'âme. C'est sûr, c'est certain. Oui. Pourquoi ? Expliquez-nous.
Et le Paris Saint-Germain rejoint l'OL en demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Il y avait eu 2-1 au match aller en Suède. Les Parisiennes se sont imposées 3-0 au Parc des Princes, avec le premier but signé Tabitha Chawinga. Magnifique réalisation de la Parisienne. Derrière, le plus beau but de cette partie est signé Corbin Alert. Le pied gauche qui termine au fond de la cage suédoise. Et puis en fin de rencontre, c'est Marie-Antoinette Katoto qui va participer au festival offensif sur ce centre de Sakina Kachaoui. C'est la 13e fois qu'un club français rejoindra forcément la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu 8 victoires pour Lyon et aucun autre club français n'a soulevé ce trophée.
Français féminin est en forme. Non mais c'est vrai.
Ouais. Vous avez un air Vardozer, Guillaume ?
Mais non, non, c'est vrai. C'est une très bonne nouvelle.
PSG Lyon, donc en demi-finale avec des champions, l'autre demi-finale opposera le Barça à Chelsea. Hervé Renard a annoncé sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus.
Oui, ce sera face à l'Irlande le 5 avril et contre la Suède 4 jours plus tard dans le cadre des qualifications au prochain Euro. Le fait marquant de cette liste, eh bien, c'est évidemment le retour de Wendy Renard. Elle était blessée lors du Final Four de la Ligue des Nations. À noter aussi les absences d'Amel Majri et de Clara Matteo. C'est dans un souci de turnover, a expliqué le sélectionneur Hervé Renard.
Ok. Non, je crois qu'on est c'est très bien. Ce soir en Euroleague, l'ASVEL recevait Monaco et Monaco, c'est plus costaud. Hein.
Ouais, victoire 87-77 pour l'AS Monaco, c'était à Décines. Un match à émotion, 21e succès de la saison en Euroleague pour l'AS Monaco qui conforte sa place sur le podium. Les meilleurs moments de cette partie avec David Cosette et Stéphane Brun aux commentaires.
Et encore Eli, là, il était trop généreux parce que je pense qu'il aurait pu shooter. Son premier coup de sifflet est refusé, Pierre Coupé demande le challenge. Je pense que
Nando de Colo face à Mamjaïté. La passe de Nando de Colo. Quelle passe de Nando de Colo. La régalade.
Wim Jackson.
Et par les Monégasques avec Jordan Lloyd. Elio Kobo à 3 points. Il le met. Oh le tueur! Il maintient son équipe à bout de bras.
On l'a un peu perdu en début de saison. C'est terminé. Alpha Diallo qui dunk sur cette balle perdue et Monaco va s'imposer sur le parquet de l'ASVEL.
Quel panier extraordinaire de Colo. Hein.
Ouais. Encore une bonne nouvelle pour les JO. Il a été blessé quasiment tout le long de la saison et son retour arrive à point.
On va avoir que des médailles à t'écouter. Quoi.
Ah ouais, on va se régaler.
On va avoir que des médailles.
Ah bah non, mais si, c'est sûr. Bah, je sais pas, le but et l'objectif du gouvernement de la ministre, c'est quoi? C'est 350 médailles sur 200 possibles, je crois.
Eh oui, la ministre a un ami, une amie de Guillaume Dufy. Ligue des champions, la victoire du PSG en Pologne, c'était face à Wisla Płock en 8e de finale. Allez.
Une victoire 30-26 des Parisiens en Pologne. Elohim Prandi, celui qui avait offert la prolongation aux Bleus lors de la demi-finale de l'Euro face à la Suède, a inscrit 8 buts dans cette partie. Meilleur total du match en compagnie de son coéquipier Siperzak. Match retour le 4 avril prochain à Coubertin. En quart de finale, ce sera comme en foot, hein, puisque c'est le FC Barcelone qui est déjà qualifié, qui attend le Paris Saint-Germain.
La finesse de prendre.
Bonne nouvelle encore pour les JO.
Eh bien, Léon Marchand, rayon record, c'était cette nuit au championnat universitaire US. C'était à Indianapolis.
Oui, c'était lui le lanceur du relais 4 fois 200 yards, 183 mètres. Et le Français est devenu tout simplement le premier homme à descendre sous les 1 minute 29, notamment grâce à ses coulées. Il a bouclé les 200 yards en 1 minute 28 secondes et 97 centièmes. Luke Hobson avait battu le record quelques minutes auparavant. Ça l'a agacé qu'un autre le batte dans la série d'avant. C'est ce qu'a indiqué Julien Issoulier, le DTN des Bleus, sur le site L'Équipe. Il est sur place. Petit rappel, Léon Marchand avait obtenu 3 médailles d'or aux Mondiaux l'année dernière. Et il visera au moins 2 titres à Paris lors des prochains Jeux Olympiques.
Léon Marchand sera-t-il la star des Jeux Olympiques de Paris? C'est le débat du Minuit Info. Jingle. Eh bien, nos Éliens ne sont pas d'accord. Oui, vote Frédéric Verdier. Non, va lui rétorquer Guillaume Dufy. Frédéric Verdier, ouais, vous misez un billet. Un billet, votre fortune. Le plan épargne logement, je ne sais pas. Enfin, on va vous donner la parole pendant 30 secondes. Oui, pourquoi vous voyez Léon Marchand au-dessus des athlètes français pendant ces JO?
Parce qu'il a tout pour, d'abord. Parce qu'il a le talent, il a le palmarès. Il est très bien cortiqué aussi. Il est très bien entouré. Il a des parents qui sont tous les deux des nageurs de haut niveau. Il a juste l'entraîneur de Michael Phelps avec lui. Hein. C'est une énorme garantie aussi. Le gars sait faire et a déjà connu ce genre de situation. Et puis, je trouve que Léon Marchand a en plus la chance d'avoir plusieurs courses, donc être l'un des rares athlètes français à pouvoir faire plusieurs médailles d'or, à la fois sur les chronos, il a exactement ce qu'il faut, et en plus, il a le calendrier. Donc, il a au moins 4 chances de médaille. Donc il a tout pour être la star de ses... dans un des sports majeurs en plus, puisque la natation avec l'athlée est l'un des sports majeurs des JO.
Merci. 30 secondes pour répondre non. Guillaume Dufy, à vous.
Non, mais c'est difficile de contredire les arguments de Fred, mais bah oui, mais il y a aussi une dimension médiatique. Et je pense que demain matin, si Léon Marchand se promène sur les Champs-Élysées avec Fred, avec moi, avec Dom, je pense que personne ne reconnaîtra Léo Marchand. En revanche, si vous vous promenez, mais ils ne me reconnaîtront pas moi non plus.
Ah oui.
Mais si vous vous promenez avec demain Teddy Riner ou Victor Wembanyama, je pense qu'il n'y aura pas photo et personne ne se retournera malheureusement sur le pauvre Léo Marchand, même s'il remporte 4 médailles d'or.
Ok, c'était long, c'était hors sujet. Donc la question était, Guillaume Dufy est-il plus célèbre que Léon Marchand? Guillaume Dufy a répondu oui. Ok, très bien.
On va y aller,
Mais attention, si
vous faites la question, c'est sera, c'est au futur, c'est pas est-il aujourd'hui.
En slip de bain.
Non.
En slip de bain.
Non, le slip de bain, non, je peux pas le porter.
Léon Marchand sera-t-il la star des JO? Vous allez sur le site L'Équipe. Patron, Fred ou Guillaume?
Ben sportivement, j'aurais tendance à dire oui, si il récolte ses médailles, c'est vraiment, je dirais, un athlète exceptionnel.
Ah oui, ça.
Il est adoubé par le plus grand des nageurs au monde.
Michael.
Après, t'as Teddy Riner, s'il gagne. Il est tellement adoré ici en France, et ça peut, là, il deviendrait, enfin, il est déjà intouchable, mais bon. Après, Wembanyama, est-ce que l'équipe de France collectivement peut résister face aux Américains?
Même s'ils ne gagnent pas.
Oui, mais.
Même s'ils gagnent
pas. Non, mais moi, je fais la différence. Là, je pense la star, ça veut dire la performance. Si tu me parles que de mannequinat, d'accord. Marchand, il est connu de personne.
Aujourd'hui.
Non, mais même, les mecs, ils ont la tête sous l'eau, un bonnet, des lunettes, on ne voit rien. Le mec, même à la fin de sa carrière, tu ne sais pas qui il est.
Si il écrit sur le Olympique, tu sauras qui il est.
Mais c'est une réalité.
Si il écrit sur le Olympique, tu sauras.
Pardon, alors, est-ce que la natation au JO, ça pèse?
Mais bien sûr, moi, je. C'est le Big Five. Et ça fait partie du commencement des JO.
Argument,
donc, la gym, sportivement,
je te dis oui. Mais après, c'est compliqué par rapport à ceux qui ont déjà gagné. Qui peut encore gagner.
Donc, rendez-vous sur les Champs-Élysées.
Je vais dire oui, parce que
demain,
c'est un marchand de bonheur.
Aujourd'hui, dans l'équipe, Léon Marchand est interviewé par Céline Nonni. Les Jeux, dans mes rêves, il donne ses objectifs pour les Jeux. Dans mes rêves, c'est comme dans la tête des gens, gagner le plus possible. Okay. Mais honnêtement, l'objectif, c'est de gagner le 200 mètres 4 nages et le 200 mètres 4 nages, et le 400 mètres 4 nages. Le reste, les autres courses, je ne sais même pas si je vais les faire. Alors, on a un peu gratté sur les éventuels. La programmation, ce qu'il pourrait faire. Les deux autres courses concernées sont le 200 mètres au bras, 200 mètres papillon, mais il y a des demi-finales qui sont à peu près au même moment, enfin avec quelques.
Il y a les relais aussi.
Voilà. Deux relais.
Il s'agit que des individuels, là, ça peut être quatre médailles. On attend qu'il fasse un ou deux relais en plus. Donc là, l'avantage de Léon Marchand, c'est sa discipline. Ce qui peut s'inventer plusieurs fois dans l'actualité.
Oui, bien sûr. Cumulé
dans une discipline, on
mais
va dire.
C'est ce que j'ai dit, Fred, il a totalement raison. Ça peut être, mais je pense que. Mais le poids de Victor Wembanyama sur cette Olympiade sera énorme en France. Énorme.
S'il gagne 30 points contre les États-Unis en demi ou en finale.
Mais tu verras le début, tu verras.
La performance avant tout.
Parce que tu sais aussi que la sphère médiatique a besoin de chair fraîche et que Léon Marchand peut incarner une espèce de nouveauté, une fraîcheur.
Quand même, ça fait deux ans.
Personne ne le connaît, tu l'as dit toi-même.
Aujourd'hui, personne ne le connaît. Riner, c'est un train qui arrive à l'heure.
Ce sera la fin de Riner.
Marchand.
C'est qu'on aime bien la fin.
Je dis pas que c'est rien. Mais je connais le processus médiatique quand il y a un jeune qui arrive. Et puis ça sera les JO. Des réseaux sociaux et Marchand peut être plus un incendie chez les jeunes que Teddy Riner qui est un plus installé, qui plaît à un public un peu plus vieux, plus âgé, on va dire, pardon. Et donc voilà, il y a aussi des raisons qui font que Marchand peut être l'incendie de ces JO.
Si Kylian Mbappé par miracle faisait les JO, tu verrais que ton débat, il est.
Mais si Zidane aussi, là, c'est fini.
Oui.
Si on annonce Léon Marchand comme le successeur de Phelps, mais c'est quoi Phelps dans les JO? C'est l'athlète 13, qui a gagné. Qui a gagné le plus de médailles. Mais 2004, JO d'Athènes. 8 courses, 8 médailles. Ouais. 8 d'or, argent, tiens, il y en a, non, 8 heures. 8 médailles en 2008 aussi. 8 heures. Avec, je sais plus combien de records du monde.
Bah, c'est Dieu, hein.
7 records du monde.
Bah, oui.
Donc là.
Total respect, monsieur.
Non, mais là, s'il est là. Ouais. Le test sur les Champs-Élysées, là.
Mais c'est monstrueux.
Phelps. Non, Phelps.
Et Bob Bowman.
Sur les champs de. Là, par exemple,
avec Phelps, toi.
Ouais. Non, pas avec. Je sais pas. C'est un sport qui existe quand même. Surtout grâce aux JO. Évidemment, il y a cette dimension coulée sous l'eau, on ne voit pas vraiment son visage, mais je ne sais pas vraiment quel poids peut avoir un nageur dans le monde des médias et sur la, bah, écoute, la planète des stars. Ouais,
Les Olympiques de 2004. J'étais même au bord du bassin quand elle gagne. Bousquet. Je crois 17 ans.
Manodou.
Ah ouais, Manodou. C'était un raz-de-marée. Bah c'était exceptionnel. Elle fait médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, les trois métaux dans les trois courses qu'elle dispute. C'était fabuleux.
Géline Saucisse en 2004. Il a fait 8 courses. Michael Phelps, des JO décevants. 6 médailles d'or, ouais, simplement. 2 médailles de bronze.
Déceptif.
C'est en dessous. Okay, voilà. Non, mais l'exemple de Manodou, là, prouve qu'on peut être une star en étant, on va dire, invisible ou solo, quoi. Hein, ok. Qui gagne ce débat?
Fred,
pas encore, pas encore, mais il est en régie.
Les gens votent. Hein.
Ah, bah là, bah voilà, ah, voilà, regardez. 40-60. Guillaume Dufy, non?
Allez, mange.
C'est ton absence d'argument.
Non, c'est Victor, je pense. Je pense que Riner, Wemby, ouais.
Une nouvelle candidate déclarée pour porter le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture. Mais de qui s'agit-il?
Pourquoi on ne donne pas à chaque année qu'on arrête ce débat pénible et insupportable aussi?
Aujourd'hui, téléphone à Max Guadjini va Laurent donner les petits.
Aujourd'hui, c'est Mélina Robert Michon qui a expliqué qu'elle avait une envie indescriptible d'être la porte-drapeau pour l'équipe de France Olympique. Elle l'a révélé chez RMC et à l'AFP. La lanceuse de disques a déjà participé à 6 reprises aux Jeux Olympiques. Elle a été médaillée une fois, c'était en argent à Rio en 2016 au Brésil. Elle compte 23 titres de championne de France. Elle a 44 ans.
Ouais, elle fait partie des favorites quand même.
Ouais, ouais, complètement. Ça serait un beau symbole, je trouve. Ouais. 7e JO, elle est mère de famille, elle est revenue vraiment de très loin. Elle a passé la quarantaine. Ouais, elle aussi, ça serait bien aussi. Mais Mélina Robert Michon, c'est un sport majeur, hein, forcément. Mais en même temps, c'est un sport majeur d'athlée, mais discipline très peu connue, le disque féminin. Donc, pour toutes ces raisons, ça serait vachement, je trouve, symbolique et intéressant de l'avoir.
Invité de marque, aujourd'hui, sur ce plateau, c'était l'émission L'Équipe de Choc, c'est Lou Jean Monod, deuxième du classement général de la Coupe du Monde de biathlon.
Deuxième derrière l'Italienne Lisa Vitozzi, on s'en souvient. La Française a évoqué dans L'Équipe de Choc son ambition et ce qu'elle vise dans les années à venir. Je vous propose de l'écouter.
Sur le globe de cristal, avant la médaille olympique, c'est souvent la question qu'on nous pose, si tu préfères la médaille d'or olympique ou le globe. Ouais. Le globe, à mes yeux, il a plus de valeur parce que c'est vraiment la régularité qui est primée avant tout. Donc le globe de sur en numéro 1, ou plusieurs, hein, finalement, plusieurs années d'affilée, moi je le prends.
T'as raison.
Il n'y a pas de problème. Et puis la médaille d'or olympique, forcément, parce que champion olympique, ça a un peu de la gueule quand même.
Déjà, tu y penses là?
Oui. C'est bientôt finalement, c'est dans 2 ans.
2026.
Avec Cyril, on a commencé à le préparer maintenant. On fait un peu déjà d'altitude en anticipant que ce sera Dupont à Antols, un stade qui est à 1007, 1008. Donc on y pense déjà tous un petit peu. C'est un bel objectif.
T'as déjà les anneaux olympiques tatoués dans le corps ou pas?
Ça, c'est sûr que je le fais si je gagne.
Ah normalement, ça y va.
En tennis de table, il n'y a pas que les frères Lebrun. Zoom sur Simon Gauzy. C'était aujourd'hui à Incheon, Corée du Sud.
Oui, sur l'équivalent d'un Masters 1000 au tennis, c'est Simon Gauzy qui a réalisé la performance du jour grâce à un niveau de jeu énorme. Le Toulousain a dominé le 10e joueur mondial qui s'appelle Dong Qiu. Une victoire 3-7-1 avec ce magnifique point gagné, vous allez le voir. La célébration, vous allez le voir juste derrière après sa victoire, célébration à la Kylian Mbappé, hein, c'est pour faire plaisir à son fils Timéo, à 5 ans. À noter que les frères Lebrun, dont vous avez parlé Mémé, sont également qualifiés pour les 8e de finale du tournoi. Par contre, chez les femmes, élimination de nos deux Françaises, Privita Pavad et Jianan Luan.
Il est fait qu'Hakimi, ça.
C'était Kylian, il fait ça.
Ouais, quelques mois. Ouais.
Kylian, il fait
ça. Oui. Il y en a plusieurs.
Demi-finaliste des derniers championnats de France, Gauzy.
Comment il s'appelle?
C'est magnifique.
Ah, Galou.
Ouais. Ah, oui. Donc, sur le site L'Équipe.
Un nom prédestiné pour un battu.
Merci, Tanguy. Espagnol contre Deschamps. La Géorgie ira à l'Euro. C'est une première dans l'histoire de la Géorgie. Une qualification obtenue à l'issue d'une séance de tir au but contre la Grèce. Quand on parle de tir au but, évidemment, on se souvient de la passe d'armes entre Deschamps ou du tir de Deschamps sur son DTN, Hubert Fournier. C'est un sujet, intéressant de discussion. Discussion du jour. Dans l'équipe, d'un côté, Richard Gir, Régis Testelin, et de l'autre, le vrai Willy Sagnol. Question de Régis. Quand Miko Tadze a raté le troisième tir au but de la séance, dans quel état d'esprit étiez-vous? Passif, tu ne peux rien te dire, tu subis et tu espères que ton gardien va en sortir un. Après, on s'était donné du temps pour que les joueurs en frappent. Pour moi, c'est un geste technique, le pénalty. Les pénaux, on les a bossés donc, toute la semaine. Est-ce la preuve que Deschamps a tort? pas fondamentalement Guillaume Dufy, je crois. Hein. C'est ça. Hein, pas...
Non, mais moi, je pense que c'est un exercice technique qu'il faut travailler, fatigué après 3 heures d'entraînement. Voilà, je prends l'exemple d'un coup droit de tennis, d'un revers de tennis, t'es un adversaire ou d'un swing de golf. Quand il fait 40 degrés, c'est ton quatrième tour, t'as un swing pour gagner un majeur. Avec la pression, l'intensité, le vent, bah, il faut que tu le réussisses, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on me dise que c'est une pièce, quoi.
Ouais, mais Guillaume, Deschamps, et c'est là où il y a, je sais pas, une zone de flou. Deschamps, il dit qu'il les travaille pas, ou il dit qu'il les travaille, mais que ça sert à rien. Est-ce qu'il y a, là, est-ce qu'on est dans un truc? Ouais. Est-ce qu'on tombe sur notre sélectionneur?
Moi, je pense qu'un joueur de foot devrait pouvoir mettre le ballon où il veut, à n'importe quel moment, choisir l'endroit. Ouais. Et je pense que s'il frappe 1000 fois dans le ballon, je pense que la 1000e fois, il aura plus de chances de la marquer que s'il frappait que 10 fois. Oui, évidemment, il y a un gardien, mais
il y a un tennis, truc marrant.
Pourquoi mais, voilà, je pense que ça se travaille. Je pense qu'un corner, ça se travaille. D'accord. Qu'un coup franc, ça se travaille.
Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi Zico, Messi, Platini
et tous les autres? Mais il y a des joueurs qui auraient quand même beaucoup moins d'eau que d'autres.
Souviens-toi, l'énorme ironie.
Messi 30 pénalty raté dans sa carrière. Voilà. La suite, Fred.
La suprême ironie, c'est Luis Enrique. C'est Euro 2021. L'Espagne perd, je crois, 5-3 contre l'Italie. Et Enrique, avec sa morgue habituelle côté Matador, va dire « Je peux vous dire que tous mes joueurs seront contraints de faire 1000 pénaltys chacun jusqu'à la Coupe du Monde 2022. » Donc, ils ont une saison, en gros, une saison et demie, pour faire leur tir au but. Ils jouent le Maroc en 8e de finale. Ils en mettent pas un des tirs au but, dont Sarabia qui carrément rate la cible. Les deux autres, dont Carlos Soler, qui rate aussi. Et Busquets, qui a quand même de l'expérience aussi, rate également. Donc en fait, là, c'est pas que ça sert à rien. C'est que là où je trouve que Deschamps, sur le plan psychologique, fait peut-être une erreur. Encore une fois, il faut être extrêmement prudent parce que par rapport à Deschamps, qui a quand même prouvé pas mal de choses sur le management, on va pas s'enflammer. Mais il se trouve que j'en ai parlé avec des entraîneurs et des joueurs. Par ailleurs, et ils sont étonnés parce que vous pouvez pas dire c'est une loterie, parce que si vous dites c'est une loterie à vos joueurs, je sais pas s'il est vraiment comme ça avant la séance contre l'Argentine, parce que s'il se contente de dire à ses joueurs bon les gars, c'est une loterie maintenant,
voilà, les gardiens ont travaillé,
voilà, les gardiens ont bossé, mais ça ils bossent tous, mais s'il dit à son groupe vous allez voir les gars, maintenant c'est un peu la loterie, évidemment, vous attaquez pas la séance avec des maniaques,
c'est ça le vrai débat. La Géorgie, au moment des tirs au but, jouait sa qualif pour l'Euro pour la première fois de l'histoire. Est-ce que ça, psychologiquement, quand Deschamps nous dit, mais voilà, tu vas reproduire ça, là, à l'entraînement? Pour lui, c'est impossible. Alors, est-ce que c'est un dialogue de sourds? Est-ce que, voilà,
je pense qu'on parle pas de la même chose. Ouais. Je pense qu'on parle pas de la même chose, parce que je pense qu'effectivement, Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, donne des indications à Meignan aujourd'hui, à Lloris autrefois.
Travail des gardiens.
Le travail des gardiens.
Mais le travail des tireurs.
Non, mais par exemple, il parlait de Luis Enrique. Tu peux t'entraîner à faire 1000 pénaltys, à un moment donné, tu rencontres Donnarumma tu t'entraînes contre qui? Il n'y a pas Donnarumma quand tu t'entraînes, puisqu'il est italien. Donc, tu tombes contre Donnarumma, il a une envergure incroyable, il est spécialiste, tu t'entraînes pas avec Meignan. Maignan, pareil, il a une façon d'anticiper, ou Landreau autrefois, qui avait une science sur les pénaltys. Donc tu peux t'entraîner. Tu as en face de toi un gardien que tu ne vois jamais et qui, lui, a une sensation, il prend le dessus sur toi. Donc on peut comprendre aussi la position de Deschamps de dire ça n'a rien à voir complètement, même sur les travails. Effectivement, c'est un geste technique, c'est une gamme. Les gammes, il faut les répéter.
J'ai pas eu Régis, et c'était pas évidemment l'angle de l'interview, mais ce qui serait hyper intéressant, peut-être qu'un jour Willy Sagnol sera là et on lui demandera comment sa sélection et lui
fait travailler
cette séance de tir au but. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers? Est-ce que voilà la manière dont après tous les entraîneurs disent on travaille, hein.
Mais oui.
Après c'est la manière dont tu travailles. Mais peut-être que lui il a quelque chose de particulier. Et même s'il travaille, il a quand même son attaquant de Metz qui a raté le sien. Je pense que
oui. Je pense que vous avez fini. Éric Blanc, ça se travaille, ça se travaille pas. C'est pour vous.
Non, mais je rejoins Guillaume, c'est un geste quand même technique, quoi qu'il arrive, même si t'es fatigué, ou tu rentres en cours de jeu, parfois, il y en a qui ont même pas 10 minutes, 5 minutes. J'ai vu une stat quand même. Mais enfin, bon.
C'est quoi la stat?
La stat, c'était quand les, je suis partagé, plus tu prends ton temps.
Ouais, tu l'avais vu dit, l'émission.
4 secondes, ils ont fait ça sur des joueurs, et il y en a qui tirent au bout d'une seconde et demie, 2 secondes. Mmh. Eux, ils ont plus de chances de les rater que celui qui va, on va dire, calmement. Mais il y en a qui sont allés calmement et qui l'ont raté. Moi, les pénaltys, je vais dire, c'est inversement proportionnel au QI.
plus t'es con, plus tu réussis. Je plaisante, mais faut pas. Si t'as un crabe dans la tête, si le mec il commence, si tu y vas, ils sont 50, tu marches, tu penses, tu réfléchis, tu gamberges, t'as perdu, tu perds tes moyens, plus t'arrives au pénalty, plus tu fais de l'huile. Donc, je me dis, il faut pas avoir peur. C'est comme une pénalité. Alors, c'est une routine. Regarde Ramos.
Mais là, ce que vous me dites, vous
non,
parlez.
Mais c'est les deux. Mais parce que je chambre un peu.
Non, mais
Ribéry n'avait pas peur de tirer un péno. Et je terminerai une chose.
Mais non, mais Eric, écoutez-moi. Oui. Vous êtes parti en disant, faut répéter tout ça. Oui. Et puis après, vous rentrez dans le truc psychologique. On marche, machin et tout ça. Et là, il y a toute cette dimension psychologique.
Alors,
vous voyez la complexité de ce débat.
Oui, parce qu'il y en a qui disent que tu mets 4 secondes, t'as plus de chance, mais t'as le temps de penser à tout, à ta mère, à ton père, au public,
à la patrie, et tu
commences à mouiller. Ou au contraire, si t'as travaillé mentalement cette démarche, tranquillement, tu souffles. Tu as vu le rugby maintenant, c'est le roi des naseaux. Tu vois, après, l'équipe de France, mais tout le monde, le top 14, t'as un essai. Nous, avant, enfin, il y a 20 ans, les mecs rentraient. Là, ils se mettent.
Ils respirent.
Retrouver son calme.
Le tireur.
Non, toute l'équipe.
Le tireur aussi, mais c'est le monde.
C'est la danse des anneaux.
Ah
ouais. Des museaux. Voilà. Et là, ils respirent tous.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est un truc de fou pour moi. Mais bon, la psychologie rentre en jeu, donc faut tout travailler.
Peut-être intéressant.
Il n'y a pas une seule réponse en fait.
Non, voilà.
Est-ce que c'est un exercice psychologique? Est-ce que c'est le gardien contre le tireur? Est-ce que c'est un truc qui sera évidemment que si on travaille, on a plus de chances. Ça paraît évident. Si tu tires 1000 corners, t'as plus de chances de les réussir. T'en tires jamais. Mais ça suffit pas de dire ça. C'est pas parce que tu dis je les travaille. Tout le monde les travaille. Il y a bien qu'un vainqueur à la fin. C'est
voilà,
que tout
mais
le
plus monde... ou moins bien. Voilà. Donc... Et il y a un témoignage intéressant peut-être. Je sais pas si vous souvenez Dembaba.
Oui.
International sénégalais.
Oui.
Il a éliminé le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec Chelsea, exactement. Et là, il est l'homme fort de Dunkerque en Ligue 2. Et je discutais avec lui il y a quelques semaines.
Il est passionnant d'ailleurs.
Très intéressant en effet. Et il me parlait justement, lui, il prenait souvent les pénalties avec ses clubs, que ce soit en Turquie ou avec Chelsea avant ou d'autres. Et il me disait, moi, je trouve que le corps a de la mémoire. Donc, de toute façon, manger du pénalty, c'est un geste technique. C'est toujours intéressant. Mais il me disait une deuxième chose que je trouvais intéressante, c'est que, très franchement, les pénalties que j'ai ratées, c'est que je les ai mal tirées. Pénalty bien tiré, vous pouvez avoir n'importe quel gardien en face. C'est bien tiré, le gardien n'a quasiment aucune chance, voire zéro. Et il disait, moi, j'avais deux styles de pénalty. J'avais le pénalty en finesse, en regardant les chevilles du gardien. Je les voyais bouger à droite, je la plaçais à gauche.
Si le mec se mettait à jouer,
voilà. Il faisait comment? Si en revanche, il ne donnait pas d'indication, s'il faisait comme Loris, ça anticipait beaucoup trop tôt, je la plaçais à côté, je ne m'embêtais pas. Si en revanche, on fait un petit, comme ça, un petit clin d'œil. Hein.
Il est Jean-Luc Ettori aussi, allez.
Voilà,
ouais.
Alors lui, j'avais mon pénalty classique, ma frappe, c'était en force, plat du pied, voilà, placé.
Vous avez vu le témoignage d'Ettori? C'était émouvant.
Alors Jean-Luc Ettori, gardien de l'équipe de France,
82. Qui devient numéro 1. Il part numéro 3, il devient numéro 1.
Et
c'était émouvant parce que je l'ai revu, je suis tombé sur un reportage et il parle aujourd'hui en disant j'ai pas été à la hauteur. Ils reviennent
il
sur la séance.
Il ne comprend pas pourquoi il a été si mauvais.
Il s'en veut encore. Il se dit comment. Et voilà, il dit j'ai pas bougé, j'ai été amorphe, j'ai rien fait, j'étais inexistant. Mais juste pour terminer après, t'as l'évolution des pénalités. Quand Neymar s'arrête, t'as vu Lewandowski comment il tire maintenant? Il a changé complètement. Avant, c'était des boulets à la Niskens, 74, 1-0. Là, il s'arrête, il fait du Neymar.
Ça fait 3-4 ans.
Oui, peut-être, mais il a changé en cours de route. Parce
déjà
que moi,
contre
je l'avais
nous,
tiré.
La Coupe du
donc,
monde,
il le pénalty aussi.
Il le racontait dans France Foot il y a quelques années de ça.
Oui, mais donc, tu peux évoluer ta façon de tirer aussi.
Il a dit
mais faut la travailler.
Il a dit que c'était une technique qui était très difficile et qu'il en avait raté.
Oui, mais il a vu Neymar les tirer.
Dembaba confirme.
Il les a pas tirés comme ça avant que Neymar les tire.
Je pense qu'il a copié Neymar, mais ça, on le demandera par Ludovic.
Avant Neymar, il y avait des mecs qui s'arrêtaient.
J'ai une séquence à vous montrer. Géorgie Grèce, d'accord. Miko Tadze. Avant le tir au but, vous allez passer en régie. Miko Tadze, 19 pénaltys tentés, 18 pénaltys marqués, un raté. C'était en 2021 avec le club belge de Serein, en Croquis Cup, je crois. C'est pas de Belgique, ouais, j'aime bien.
Vous faites plutôt bien le.
Oui, j'aime bien. C'est sympa pour les Belges.
Évidemment.
On regarde le pénalty de Georges Miko Tadze, c'était mardi, voilà, contre la Grèce. Regardez.
Et hop. Voilà.
Ah oui.
Là, c'est terrible.
Il est bien tiré.
Est-ce que c'est la preuve que le travail, ça sert à rien, ou ça fait pas tout? Voilà, on en revient toujours au truc, parce que là, le pénalty, là, il est raté. Il n'est pas cadré. Là, il
non,
est.
Non, c'est pas cadré.
Il est raté.
Non, c'est le geste technique qui est raté, parce qu'il prend à contre-pied, c'est magnifique. Ah, oui. Il peut pas, après, et il ne cadre pas, le geste technique est raté.
Et Mikotadze, c'est un numéro 9, c'est un tireur de pénalty. Le gars, la surface, c'est son
adversaire. Non, mais regarde, même, tu parlais de Messi à une époque, parce que les 30 pénaux ratés.
30 pénaux ratés,
non, mais
sur 100,
faut voir à quel âge. Mais à un moment donné, non.
Parce qu'il était pas bon à 19 ans, il était pas bon.
Pardonnez-moi,
je peux terminer.
Oui, pardon, président.
Il a eu à un moment donné, à son heure de gloire, quand il a eu une mauvaise passe. Et pendant un an, il ratait tous les pénaux. Oui, on tremblait tous.
Les 30, c'est 30 en une saison.
Tu vas arrêter de nous la faire à l'envers.
Non, mais là, vous montez au
Pour terminer,
il est en train de se réactiver. Regardez là.
Juste pour terminer.
Il se calme, mais le volcan.
Il a marqué les pénaux qu'il fallait en Coupe du Monde.
Ah non,
c'est
nul.
Messieurs, je suis obligé de me défendre. Voilà, vous m'avez humilié.
Vous êtes l'antifrance.
Mais non, on est en direct avec l'Argentine, tu le
anarchiste.
Sais pas, ça.
Mes petits, Deschamps, il n'est pas convaincu des bienfaits d'un travail spécifique sur les pénalties.
Bah, c'est mieux qu'on n'ait pas d'autres séances de tir au but pendant l'Euro, alors.
Ouais.
Si on est un peu serein.
Il y a aussi la pétence, Guillaume. Je pense que Maignan adore ça, par exemple. Si on parlait de Loris, je pense que Maignan adore cet exercice.
Oui, Maignan adore.
Et donc,
je pense
qu'on aura une séance différente avec Maignan si jamais ça se reproduit.
Ça, c'est le gardien.
Ouais, oui, c'est deux exercices différents. Je pense qu'on a aussi des tireurs qui sont différents.
Je peux vous poser une question. Est-ce que ça vient aussi du fait que Deschamps, a priori, je n'ai pas son CV sportif quand il jouait, mais il ne tirait jamais les pénaux. Et quand il y avait les séances, il ne tirait pas. Est-ce que lui, il est tellement marqué? Non, mais on laisse taper d'abord les buteurs. Je peux le comprendre, mais est-ce que ça peut jouer? Parce qu'un mec comme Luis Enrique, je me rappelle, il allait tirer les pénaux avec l'Espagne quand il était appelé. Non, mais quand il était appelé, il y allait. Alors, je te parle, est-ce que Deschamps, ça pose un problème on sait tous qu'il n'y a pas.
Il bloquerait sur les pénaux.
Non, ben lui, il a son avis. Il n'y est jamais allé. On a dû lui demander à Deschamps d'aller tirer les pénaux.
Il gagne la Coupe du Monde en 94 au tir au but. Et Mario Zagallo n'est pas un tireur de pénalty spécial et c'est lui qui est sélectionneur du Brésil. Donc on n'est pas non plus obligé de croire que c'est absolument...
Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ce refus d'aller aux pénaux? Je te pose la question, j'en sais rien.
Je sais pas.
Faudrait lui poser à Deschamps.
Il a, en tant que capitaine de l'équipe de France, il a gagné des séances de tir au but. Il était sur le terrain pour France-Pays-Bas en 96. Il était sur le terrain aussi après quand France-Italie 98. Ouais. Il est là, tu vois.
Oui, mais 98, il va pas au pénal.
Est-ce que c'est pas, intelligent de laisser sa place?
J'ai pas dit qu'il avait peur. Je te dis, est-ce que lui?
Il avait peur.
Ah, je ne sais pas. Après, je peux penser que, comme il dit, il est intelligent, il laisse tirer des buteurs.
Ok, vous voulez avoir
ceux qui peuvent y aller, en tout cas.
Moi, il semblerait que pour l'histoire, il ait envoyé au feu les petits jeunes. Voilà, Henri et Trezeguet, parce qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité en cas d'échec de son tir au but, d'avoir la France éliminée et de porter la responsabilité de la défaite, on ne s'en mettrait pas. Voilà, donc il a laissé les petits jeunes. Voilà.
Moi, je vous pose une question.
L'intelligent, c'est Djor Kaef, qui lui était le tireur attitré de l'équipe de France, qui n'y va pas, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il sait que Pagliuca, qui joue à l'Inter comme lui, qui est le gardien italien, connaît absolument tout ce qu'il fait, toute sa routine. Il n'a pas envie de lui filer du grain à moudre.
Un coach doit-il être convaincu d'un exercice pour être efficace? Lui, Deschamps, il est là, il dit non, mais c'est pas une loterie, mais enfin voilà, il veut pas les travailler. Est-ce que voilà, s'il fait ça à contre-cœur et machin, c'est pas possible, quoi. Il ne peut pas enseigner quelque chose, il ne peut pas apporter quelque chose.
Un entraîneur, c'est entraînant. Si l'entraîneur, il n'est pas entraînant.
On parle beaucoup du tireur depuis le début du débat, mais tu en as parlé un peu, mais le rôle du gardien est primordial. Quand tu as un gardien qui a de l'appétence pour cet exercice, Maignan est monstrueux. C'est pour ça que j'ai trouvé d'autant plus remarquable la performance de Bourigeaud l'autre jour, lors de Rennes, Milan, quand marque 2 le même soir à Maignan. Quand je voyais la manière dont Landreau arrivait à rentrer dans la tête des. Attaquants ou des tireurs de pénalty. Je trouve que le gardien a un rôle capital.
Excellente intervention de Guillaume Dufy, mais la pétence est la dernière fois. On marque une pause dans quelques minutes. Luis Campos est viré. Non, c'est juste en train d'humour.
D'accord.
Luis Campos viré, c'est une indiscrétion de l'équipe, probablement sur le départ. On va vous en parler et vous donner quelques détails dans quelques minutes. « Alerte générale peut-être.
Alerte générale.
Merci Guillaume Dufy, écoutez bien. Léon Marchand a un message pour vous. Ah, Tanguy Le Séville.
Oui. Nouveau record pour Léon Marchand, ça vient de tomber. Voilà, il a explosé.
Je l'ai titillé. Hein.
Voilà, c'est ça. À l'orgueil, il a réussi à battre son record sur le 500 yards en nage libre. 4 minutes, 2 secondes et 31 centièmes. Il a battu son record de près de 4 secondes.
Qu'il a regardé l'équipe du soir. Et c'est universitaire. Hein, c'est, voilà.
Non, je crois qu'il a regardé l'équipe du soir, juste avant de plonger. Il a vu le débat avec Fred, il n'a pas aimé.
Là-bas, on l'appelle The Team of the Night.
C'est ça.
Et demain, il prend un avion et sur les champs avec Dom.
À poil.
Fred.
Après les jeux.
Tanguy, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça c'est Eric à poil sur les champs.
Tanguy, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, il y a un autre résultat qu'on n'a pas eu le temps de diffuser tout à l'heure. Le match nul en Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Brive avec un essai, ça fera plaisir au président, de Julien Blanc. C'est le fils du président, tout simplement.
Vous n'avez pas l'image?
Je le félicite. Grand jeu décisif et tout important pour la qualification de Brive pour le top 6. Numéro 9.
La une de l'équipe.
Gilet jaune du rugby français.
Son père.
Il devrait jouer un peu plus.
La une de l'équipe de ce vendredi, évidemment, c'est l'Europe du Nord avec ce derby entre Lille et Lens qui se disputera à Pierre-Mauroy ce vendredi soir.
Luis Campos viré, point d'interrogation. Indiscrétion l'équipe, Luis Campos partant cet été. C'est probable. L'explication à cette disgrâce est simple. Le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison du Paris Saint-Germain. Le conseiller sportif, lui, n'est pas fondamentalement surpris. Puisqu'une phrase prononcée par le Portugais est publiée aujourd'hui dans l'équipe. C'est Luis Campos qui parle. Le jour où Kylian partira, je sais que je ne resterai pas. La preuve que rien n'a véritablement changé au Paris Saint-Germain. Les saisons passent et les révolutions se succèdent. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord sur cette thématique. Jingle. C'est un non pour Benjamin Quarez et Frédéric Verdier qui commence la fouine The Voice.
Oui, oui.
Apparemment, c'est pour moi.
C'est pour vous.
Merci.
Dominique, pour la première fois de l'histoire, de vous faites tandem avec Guillaume Dufy.
Ouais,
je suis perdu. Aidez-moi.
C'est 27 ans d'amitié. Hein.
Oui. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien que l'expertise de Dominique achève ce duel. Et moi, je débroussaille, je... Voilà.
D'accord.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Ouais. Ouais. Ok. Ça ne me dérange pas du tout. Je
tiens
à devancer votre
question. Ça ne dérange pas de non plus.
Ça ne dérange pas de
l'initiative.
Du tout.
La preuve que rien n'a changé au Paris Saint-Germain, non. Benjamin Quarez, alors qu'est-ce qui se passe?
Le changement, c'était la fin de l'ère des stars au Paris Saint-Germain. On l'a vu pour le coup l'été dernier avec le départ de Neymar, de Messi, de Verratti. Voilà. Les stars, c'est aussi Kylian Mbappé. Et qui est arrivé dans les bagages de Kylian Mbappé? C'est Luis Campos. Donc si le PSG trace un trait sur l'avenir de Luis Campos à la fin de la saison, ce serait une sorte de continuité et non pas un changement à mon sens. Donc on va être sur une continuité comme je le dis. S'il part à l'issue de la saison, ce serait donc la continuité. Mais aussi, je reste très prudent parce que pour le coup, Nasser a appuyé plusieurs fois sur le travail qu'il pouvait fournir au Paris Saint-Germain. Et c'est, donc je n'ai pas forcément les informations parisiennes, donc je resterai très prudent et je m'arrêterai là sur.
Ok, très bien. Guillaume,
tu as un souci avec ton confrère de l'équipe si tu mets en
cause les informations. Que j'ai prévenu en amont.
Non, mais moi je suis halluciné par cette information. Quel grand club digne de ce nom lirait l'avenir de son. Conseiller sportif, de son directeur sportif à l'avenir d'un joueur. Est-ce qu'on verrait ça à City, à Land qui part, le recruteur s'en va, au Bayern, Ken part, le recruteur s'en va, pareil au Real. Non, voilà, ça ne change absolument rien et ça prouve encore une fois que Paris Saint-Germain n'a pas l'étiquette d'un très grand club. Et je pense que les leçons du passé n'ont pas été retenues et ça recommence et on va repartir pour 10 ans, 15 ans, pareil.
Laissez un petit peu de temps à votre camarade Fred. Pardon, Verdier, vous faites partie des noms de la bande à Quarez, expliquez-nous.
Non, parce que je trouve que c'est pas la preuve, c'est une des raisons. Campos n'est pas non plus quelqu'un d'emblématique, je trouve que c'est pas quelqu'un non plus qui, s'il devait partir en juin, juillet, laissera une trace colossale. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un épiphénomène et c'est pas un emblème de la politique sportive du Paris Saint-Germain. Pas suffisamment.
Qu'est-ce qu'on dit, Dominique?
Sur le fond et la forme, je trouve incroyable que Luis Campos paye pour un contrat qu'il n'a pas signé, celui de Mbappé, la prolongation. C'est de la Serie Real Life et Antero Henrique qui, il y a 2 ans, ont signé cette prolongation. Donc s'il faut s'en prendre à quelqu'un, ça c'est de là. C'est eux qui ont fait cette mouture de 2 plus 1. Si quelqu'un n'est pas content, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et donc je trouve ça incroyable que Paris cochait.
7 dixièmes de seconde. Pardon, pour Fred et Benjamin. Vous avez quoi? Un autre argument personnel? Merci, vous pouvez y aller. Le croupier, voilà.
personnel, ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Je suis dans la poche.
Petit croupier.
Et oui ou non, la preuve que rien n'a changé à Paris, puisque Luis Campos pourrait partir dès cet été, indiscrétion, l'équipe avec beaucoup de journalistes, hein, Loïc Tanzi, Arnaud Herman, tous les copains qui s'occupent du Paris Saint-Germain.
José Barroso, Damien Degor.
Merci beaucoup. Merci.
Ben, président. Non, moi, je ne veux pas lier obligatoirement le départ d'Mbappé et Campos est viré. Il est viré peut-être parce que déjà, il a raté quelques transferts. Il y a des trucs incroyables.
C'est pas du tout le signe du... Enfin, c'est pas le sens de l'article. Mais,
non, allez-y. Mais moi, c'est ce que je pense. Oui. C'est qu'il était déjà dans le siège auto, il touchait plus aux pédales. Mmh. Maintenant, il est près de la photocopieuse. Il va payer son pot de départ. Et on s'en souviendra pas beaucoup de Campos.
Important que la photocopieuse.
Je vais vous dire une chose, parce qu'il est arrivé en berlingot utilitaire avec des mecs du Celta Vigo
un peu partout. Ah, vous allez faire le coup du Kangoo, là.
Oui, pas. Mais il a quand même des mecs. Cite-moi, vous allez me dire, cite-moi les 4-5 joueurs où c'est un bide total qu'il a ramené. Parce que ramener Mbappé, sortant de Monaco en 2017. Moi, je peux le ramener, hein, si je le connais. Si es... C'est pas. Il part de Monaco, ils mettent 200 briques sur la table. Oui. Bon, l'autre, il s'en va. Là, vous liez obligatoirement son départ.
D'accord.
Bon, et vous dites. Eric... Mais vous dites, il recommence à faire des conneries. Mais le PSG va vivre son Campos.
Mais Eric.
Campos, c'est pas la plaque tournante.
D'accord. Mais alors, quand Leonardo fait venir Thiago Silva, Ibrahimovic, tout ça, donc en fait, ce qu'il faut, c'est prendre des stars, et puis comme ça, t'es sûr de pas te
tromper. Non,
c'est pas très difficile non plus.
Non.
Moi, tu me files un carnet de chèques, je vais te chercher les meilleurs.
Non, moi, je suis très dur peut-être avec Campos, mais toi qui suis.
Barcola, tu pensais qu'il serait titulaire en 6 mois?
Non, mais Barcola,
il a. Le PSG, non, mais... tu pensais qu'en le sortant de Lyon.
Je suis obligé de te dire que.
Je dis pas que c'est le.
Non, mais arrête de me dire que Barcola, c'est une pioche, on l'a vu, il a 21 ans.
Tu savais, toi?
Non, mais titulaire, non, mais l'acheter pour que ça soit le futur du PSG, changer, oui, Kolo Muani, je suis plutôt surpris. À 92 millions.
Chouane Nasser Al Khelaïfi.
Quoi ? Oui, c'est lui, mais Campos, il a dit non ?
Non, il a.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
C'est un choix qu'on lui a imposé, plus imposé qu'il a.
Donc lui, là, il ne s'est pas mouillé. Mais cite-moi les 3-4 mecs qui s'est mouillé.
Beraldo, tout récemment, qui est comme titulaire depuis l'éblation.
Non, après, Luis Enrique, peut-être, mais Beraldo, il a été adoubé par Luis Enrique. Non, mais les 3-4 joueurs qui ne jouent pratiquement pas.
Tanguinli, Ramos,
qui vont sortir.
Et d'autres avant, Skriniar, tout ça, etc. Bon alors, c'est des échecs quand même.
Ça fait combien? C'est 2011-2024.
Mmh. 13 ans. Non, combien de directeurs sportifs ou de gens préposés à la direction
Olivier
sportive?
Olivier Létang, Patrick Kluivert, Leonardo.
Deux fois Antero Leonardo.
Antero Henrique, Luis Campos.
Mais attention,
c'est reparti.
Oui, mais Benjamin, il a l'air de dire. Non, mais Benjamin, il a l'air de dire qu'il va être peut-être derrière le rideau.
Peut-être.
Je sais pas, tu es en train de dire que vous aviez pas les mêmes informations.
Je me mets à la place de nos téléspectateurs, certains sont fans du Paris Saint-Germain. Qui fait le recrutement pour la saison prochaine donc là,
en l'état, c'est Luis Campos.
C'est Campos.
C'est Campos. Aujourd'hui, c'est complètement lui.
En mars, c'est maintenant que ça commence un peu à négocier, à parler avec les agents, les rendez-vous, c'est lui qui les.
C'est complètement lui.
Mais toujours avec la feuille de route d'en référer à Nasser El Khelaïfi. Nasser El Khelaïfi en réfère au Qatar quand c'est des gros joueurs. Mais acheter un joueur à 12 millions. Pas lui réveiller l'émir. Si c'est un joueur à 250, à 150, je sais pas, par exemple, Victor Osimhen, je crois que Naples en veut 150 ou 130. Bon, bah, pour
Sandro Osimhen. Attendez. Antero, il est encore dans le coin ou pas? Il est au Qatar, il est dans le paysage.
Jamais loin.
Mais parle-moi de Luis Enrique. Tu vas pas me faire croire que. Tu es en train de parler que Campos et Nasser et Luis Enrique, ils regardent et ils parlent pas, Luis Enrique.
Il répond aux questions de mémé.
Non, mais cite Luis Enrique. Je peux pas croire aujourd'hui que Luis Enrique n'est pas dans le recrutement.
Une phrase hyper intéressante et qui dit beaucoup aussi de ce qu'est le PSG aujourd'hui. Tu parlais de Kolo Muani. Tu dis Kolo Muani, c'est Nasser. Un président qui recrute.
95 millions.
Bon, on est où, quoi? On est où? Est-ce qu'on est dans un grand club de foot quand un président qui a une connaissance...
Tu sais bien qu'à Madrid, il y a des lubies du président.
Il y a des lubies, mais... Moi, ça continue de m'étonner. Et je pense qu'un club... qui fonctionne comme ça ne peut pas y arriver.
Oui, mais un vrai directeur
ne peut pas y arriver.
Alors, je te pose une question quand même. Une question, Guillaume. Un vrai directeur sportif, dans n'importe quel autre sport, il doit dire à son président, président, faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Mais il peut dire, s'il y croit pas, je pense qu'on fait une erreur. Et on doit placer cet argent ailleurs. Et toi, tu penses que tous les mecs se couchent. Il n'y a pas un mec qui dit à Nasser de temps en temps.
Dominique, Benjamin,
tu sautes. En fait, il faut avoir une force politique.
Et alors
Leonardo,
tu sautes. Et alors, où est le problème? Tu sautes.
Bah, tu sautes.
Et tu viens trouver du boulot c'est ailleurs. Mais c'est ça. Et ben c'est ça. On meurt de ça. Des mecs qui ont des responsabilités des, sous les PDG ou les actionnaires. Exemple, et les mecs, on va droit au trou et ils disent rien, les bras croisés, ils prennent le chèque, ils disent rien. Ouais,
alors, okay. Tu crois que Campos, il lui dit écoutez, presse.
Mais gentiment, il n'insulte pas, il ne lui fait pas une prise de judo. Je ne suis pas téliriné, je ne fracasse pas la tête. Mais
non, mais c'est. Voilà pourquoi vous ne serez pas conseiller sportif.
Faites pas Colomani, donc il est viré.
Non, je dis président, je pense qu'on fait une erreur. Maintenant, vous êtes le patron, gentiment. J'ai déjà entendu ce genre de discussion à des niveaux qui ne sont pas stratosphériques, mais au haut niveau. Et c'est incroyable que tu me dises qu'il faut se coucher.
Oui, mais Nasser, il fera ce qu'il veut que l'autre lui dise.
Eh bien, après, il fait. Je m'en fous. Mais tu as la conscience tranquille.
Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne lui a pas dit non ?
Tu me dis qu'il lui. Personne ne lui a rien dit à Nasser ?
Je ne suis pas dans le secret des discussions, mais je ne suis pas sûr que quand ils ne sont pas d'accord, ils se le disent.
J'ai du mal à le croire.
Quand ils sont pas d'accord, je crois qu'ils se le disent plutôt.
L'information de l'équipe, c'est Luis Campos. Il serait probablement partant cet été, ou plutôt sur le départ cet été. Benjamin, vous avez eu la délicatesse d'appeler vos confrères et tout ça. Vous n'avez pas le même son de cloche. Bah, écoutez, on vous donne la main. Nous, on a une information de l'équipe. Et puis vous avez une autre information, mais voilà.
Je dis pas que l'information n'est pas
bonne. Mais vous avez autre chose.
Mais disons qu'on est moins incisif aujourd'hui. Effectivement, dans les faits, le prochain mercato est préparé par Luis Campos et il s'est d'ailleurs écrit dans l'article de l'équipe, il appelle les différents collaborateurs, il fait des rendez-vous en parlant la saison prochaine sans qu'il y ait Mbappé. On a aussi noté un certain rapprochement avec Luis Enrique. Nasser Larefi, hier, a encore souligné le travail, alors ça peut être de la communication, vous allez me dire, le travail de Luis Campos lors d'une conférence au Portugal où il n'était pas obligé de le faire. Et en ayant évidemment appelé certains collaborateurs de Nasser Larefi, le discours qui nous est donné aujourd'hui, c'est qu'ils sont en l'état plutôt satisfaits du travail de Luis Campos, excepté ce dossier Kylian Mbappé, qui était quand même sa mission première et qui n'a donc pas été réussi. Mais on nous en renvoie surtout la balle dans son camp, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, son avenir, ce n'est pas leur problème à eux, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas forcément vocation à arrêter. Par contre, la question, c'est est-ce que Luis Campos voudra continuer à l'issue de la saison ?
Lui, il veut.
On se rappelle quand même que quand Kylian Mbappé est arrivé au Paris Saint-Germain, il était aussi question éventuellement qu'il aille au Real Madrid parce qu'il y avait double dossier entre le Real et le PSG.
Bien sûr.
Une fois Kylian Mbappé parti, est-ce que Luis Campos fera le mercato du PSG et partira dans la foulée. C'est une hypothèse qui n'est pas exclue. Voilà, mais c'est.
Campos aurait resté.
Oui.
Mes amis, nous allons jouer à présent. Joker. C'est Rico. Rico. C'est l'anniversaire de Steve Mandanda aujourd'hui.
Quel âge a-t-il ?
39
ans.
Ok. Le thème basique, simple, efficace. Je suis champion du monde 2018.
Très bien.
Ah là là. Très bien.
Je vois.
C'est mon anniversaire aujourd'hui.
Steve Mandanda.
Vous avez dit le premier ?
J'ai dit Steve.
Vous êtes éliminé.
Merci.
Parce que j'ai 28 ans.
Benjamin Pavard.
Benjamin Pavard.
C'est la frappe de bâtard.
Point pour Benjamin Correz.
Bravo, monsieur Correz.
Benjamin. Bravo, Benji. Attention, je suis champion du monde 2018 et je suis entré en jeu lors de la finale.
Tovin.
Enzonzi.
Fekir. Ah. 4 points. Regardez son visage, c'est éclair.
Radieux.
Je joue actuellement en Serie A.
Tovin. Giroud.
Oh. Tovin.
C'est sûr, c'est ça.
Florian Tovin.
Je ne connais qu'un joueur. J'étais gardien. Tovin.
Il est passé celui-là, hein. Je vous le dis. Vous en avez un autre en tête là ?
Bien sûr.
Ok. En 2018, je ne joue que le match contre le Danemark.
Que contre le Danemark ?
Lemar.
Thomas Lemar. C'est une mauvaise réponse.
Kimpembe.
Vous ouvrez le score. Votre score, Dominique Sebrac. On fait un point sur les scores. Ricky ?
Faut que je marque.
C'est maintenant. Parce qu'il a 4 points. Je réalise l'exploit d'être champion du monde avec zéro sélection.
Areola.
4 points supplémentaires pour Frédéric Verdier.
Je l'élimine pour Merci. Vous laisser une chance.
Ah, ok, c'est
sympa. Moi, je suis mort, mais bon.
Oh, tu peux revenir.
Ricky.
Pour toi, c'est pour toi.
Elle est pour toi. Je suis né à Mâcon.
Griezmann.
C'est pour Ricky.
Mais non.
j'avais les lèvres.
J'avais les lèvres.
Et il a dégagé les premiers.
Si tu tournais les lèvres, je peux pas me tromper là-dessus.
Non, oui, bah oui, non, mais c'est... Non, vous n'êtes pas trompé. Vous avez été moins rapide que Tonton Ricky. Attention, champion du monde 2018, j'ai pris ma retraite.
Rami.
Rami. Au revoir.
Nzonzi.
Nzonzi, au revoir.
Matuidi.
Matuidi.
Ah ouais.
C'est une bonne réponse.
Ah ouais.
On regarde les scores.
Ah ouais, 8-7, hein, 8-8.
Comme Mandanda, j'ai fait mes débuts en bleu en 2008.
Loris.
Loris. C'est logique. Et c'est 4 points.
Ça m'énerve.
On va y prendre large.
Ça m'énerve. Ouais,
c'est vrai. Attention, nous sommes à 2 réponses du terme de ce quiz et le break est fait par l'incroyable Frélo. Lors du mondial, je ne compte que 15 sélections.
Hernandez.
Hernandez. Au revoir.
Mendy.
Benjamin.
Benjamin.
Ah, c'est pas mal, mais c'est pas celle-là.
Nzonzi.
Je reviens.
Nzonzi, vous revenez pour. Vous avez une idée
pas
ou pas
encore.
Ok.
Bah, je reviens déjà, donc je peux pas avoir l'idée.
Non. Elle est pour toi, celle-là.
Ah.
Je n'ai que 19 ans.
Mbappé.
Merci beaucoup. Voilà. Je le connais, mon Ricky. Je le connais, mon Ricky.
Mais non, mais.
Oui,
non.
Juste en dessous,
mais non, mais. Dire mon prénom et qui gagne, quoi.
Ah, bah non, non, non.
Elle est pour toi, j'ai cru qu'il y avait des réponses.
Elle est. Non. La dernière pour. Ah. Non, mais je connais, ouais, mon Ricky.
7, 8, hein, je... Ah non, 12. Oui.
Ça fait plus.
Il n'y a que. Fais la finale entre les deux, s'il te plaît. Ils peuvent venir. 12-8, on est battu, nous, c'est fini.
Là, on se fait
une petite finale. Hein? Non. Tu peux revenir en match.
On se fait une finale.
Compte pas trop sur lui quand même.
On se fait. Ou alors 10 points sur la dernière.
Bien sûr.
Ah, bah c'est jamais 40.
Bah oui, vas-y. 10 points.
Bah oui, oui.
Est-ce que t'es d'accord?
C'est bien.
10 points sur la dernière.
10 points.
Donc on revient.
Allez, tout le monde revient, c'est 10 points. Frélo, vous êtes d'accord? Évidemment, j'ai pas
de évidemment. Ça ne désavantage pas du tout.
J'ai joué 90 minutes contre le Danemark. Et puis c'est tout.
Sidi B.
Sidi B éliminé.
Aïe, 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 aïe.
Mendy.
Varane.
Benjamin Mendy.
Non.
Varane.
Elle n'est pas pour toi, Ricky.
J'ai joué 90 minutes.
Ça a déjà été.
Mandanda.
Les Mandanda.
Varane, il a été cité.
Qui ça?
Lémar.
Thomas Lémar. C'est pour vous, c'est le diplôme, Ricky. Voilà.
C'est mérité.
C'est pas mal ce 10 points pour la dernière.
C'est bien.
Il est magnanime, le président.
Ouais. Ouais. C'était bien, Fred.
Surtout moi qui le suis magnanime.
T'as pas la vérité, Fred.
Allez, on vous embrasse. Demain, c'est le derby du Nord. Hein,
ah
entre
oui
l'île et l'Anse.
L'Europe du Nord.
Non, la France du Nord, le Nord.
Oui, voilà. Non, c'est le titre de l'équipe.
Comment?
C'est le titre de l'équipe.
Ah oui, bien sûr, oui. C'est important. Ouais. La synergie, tout ça. On vous embrasse, Nébiké. Demain, on sera là. La maison est toute verte. Allez, à demain. Come on everybody, let's get with the fly mode. Still got room on the truckload of black gold. Listen to the rhyme to get a mental picture of this black man, black woman picture. Why do I say that? Cause I gotta speak the truth, man. Doing what we feel for, but music is the proof. And playing it on the ground, the act is so together. Bonafide strong, you need leverage to sever. The unit, yes, the unit, yes, the unit called the jazz is delivering each year.